Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est les belles rencontres de l'entrepreneuriat. Et c'est ça que on a tendance à oublier quand on va me dire encore une fois j'ai peur de me lancer, j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, etc. Ouais. Ce qu'on a tendance à, et même moi, hein, la première, tu vois, en 5 ans, je pense que c'est rare que je parle du fait qu'on a toujours des belles rencontres qui nous poussent aussi à avancer. Et parfois, c'est des gens qui nous connaissent même pas. C'est souvent d'ailleurs ceux qui nous connaissent le moins qui peuvent avoir confiance en nous parce qu'ils ont senti notre énergie.
Hello, je suis Isadora.
Et moi Marisa.
Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel.
Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations.
Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine.
N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle.
Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez.
Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent de d'habitude puisqu'on va parler d'entrepreneuriat, oui, mais je ne parlerai pas de mon expérience parce que pour une fois, pour la toute première fois, j'interview une chef d'entreprise, une entrepreneure. Et j'ai invité donc Sokona, que vous connaissez peut-être sous le nom de l'émancipatrice sur Instagram ou via son compte Instagram Sokup. Donc bonjour Sokona.
Bonjour et bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais qu'aujourd'hui, donc là il est 8h58, mais que chez toi à Dubaï, il est un peu plus tard que moi.
Midi bientôt.
C'est super. Donc généralement, quand on me demande, moi, de me présenter en une phrase, c'est ce que font d'ailleurs tous les entrepreneurs, ils te demandent toujours comment tu te présenterais en une phrase ou les gens autour de toi. Moi, je me sens jamais à l'aise parce que en une seule phrase, je trouve ça hyper dur de dire tout ce que je suis et tout ce que je fais. Donc, pour commencer, je te mets au défi de répondre à cette question. Qui es-tu ? Que fais-tu en une seule phrase?
Ok, alors c'est vraiment pas facile pour moi non plus parce que déjà je suis une pipelette. Alors voilà,
bienvenue au club.
Faire une phrase, mais je vais essayer. Déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir sur ce podcast et c'est un plaisir d'échanger mon parcours dessus. Alors du coup, en une phrase, que dire? Je suis Sokona, une femme noire, maman et chef d'entreprise qui a décidé de vivre une vie d'émancipation. Voilà, ça fait une phrase.
Ah oui, franchement, super. Elle est top, ta phrase.
Super. C'est le plus clair possible.
Tu es maman, tu as 2 enfants, c'est ça?
C'est ça, oui, 2 enfants.
Ils ont quel âge?
Alors, ma fille a 4 ans et mon fils 18 mois.
Ah oui, donc c'est des petits.
Oui.
Eh bien, super, on y reviendra un peu plus tard. Okay. Moi, personnellement, je t'ai découvert, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne pourrais pas mentir en disant que ça fait plus d'un an que je te suis. Non, ce n'est pas possible puisque tu as créé ton compte il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Moi, j'ai découvert parce que beaucoup de gens partagent sur leur story des partages consacrés à Sokup. Et à chaque fois, tu t'es mentionné, c'était écrit Sokup, l'émancipatrice. D'accord. Donc, moi, comme je suis un peu curieuse, j'aime bien aller voir... qui se cache derrière les marques, on va dire. Ouais. Je me suis abonnée et du coup, maintenant, c'est un plaisir pour moi de te suivre et de regarder un petit peu ton quotidien à Dubaï. Et j'ai regardé, avant de préparer cette interview, que tu as créé ton compte personnel le 14 novembre 2019.
Oui.
Donc, c'est hyper récent.
Oui.
Le compte Sokup existe, lui, depuis mai 2017. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus éloigné que ça. Pourquoi tu as choisi de créer un compte perso plutôt que de partager, par exemple, sur ton compte professionnel?
D'accord. Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est justement du fait qu'avant, je partageais également sur le compte pro un peu la vie personnelle, parce que je trouvais que c'était très intéressant d'avoir aussi les coulisses de l'entreprise, de voir qui se cache derrière, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment un plus d'avoir ce côté un peu personal branding. Voilà, derrière ce cup, il y a ce connard, voilà ce que je fais, comment sont traitées vos commandes, etc. Je partageais vraiment tout. On me voyez, celles qui suivent depuis le début, elles ont dû voir bien l'évolution de Socop. On voyait préparer les colis, aller à la poste, etc.
Ah, super!
Voilà, on était vraiment sur du personal branding, on montrait tout. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu avoir une entreprise qui soit transparente. Donc, au départ, ça a commencé comme ça au niveau de Socop, puisqu'à la base, c'était une auto-entreprise, donc j'étais toute seule. Et puis ensuite, Socop a pris un tournant. Et maintenant, ce qui définit Socop, ce n'est plus moi, Socona, voilà, la petite entrepreneuse qui avait lancé sa petite marque. Maintenant, c'est vraiment l'idée de définir Socop par la révolution mensuelle de toutes les femmes, voilà, à travers différentes personnes, etc. Et du coup, je trouvais que c'était un peu complexe de garder toujours ce côté très personal branding sur un compte de marque qui commençait à grossir, les produits commençaient à être de plus en plus nombreux, etc. Et du coup, j'ai voulu faire vraiment une distinction entre les deux, et aussi pour laisser les choix aux abonnés de se sentir bien sur un compte qui a une thématique. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés que vers les produits Socop et la marque, ils suivent juste le compte Socop. Et ceux qui sont plus intéressés par la partie entrepreneuriat, etc., ils peuvent suivre le compte L'Émancipatrice, où vraiment je partage en fait les coulisses de Socop comme je faisais avant, mais là encore de manière beaucoup plus personnelle, puisque moi ce compte-là c'est un peu comme un blog, un vlog plutôt, où je partage mon quotidien de maman, de chef d'entreprise, de femme, etc. Et puis voilà, donc du coup c'était vraiment le fait de dissocier les deux choses, mais bien entendu les choses sont liées, c'est-à-dire que de temps en temps je vais prendre la parole vraiment de manière face caméra sur le compte Socop, de temps en temps sur le compte privé, je parlais de Socop, etc. Mais c'était quand même de faire une distinction pour que les gens s'y retrouvent. Voilà.
Ouais, bah c'est vrai, t'as raison. Je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'au début on fait tout sur notre compte personnel. Enfin, au début on fait tout sur notre compte pro. Ouais. Et puis quand ça commence à grossir, tu te dis, est-ce que tout le monde est là pour écouter Isadora ou ils sont là pour voir la marque, quoi.
Exactement, donc, c'est ça. C'est ça permet aussi de laisser le choix en plus aux abonnés. Voilà, puisque comme toi, par exemple, qui aime découvrir plus ce qu'il y a derrière les marques, qui se cache derrière, etc. Il y a le compte perso. Et puis pour ceux qui s'intéressent pas trop, ils achètent leurs produits et puis basta. Ben voilà, il y a le compte pro. Voilà.
Super. Et pour entrer dans le détail, du coup, justement, de Socop, déjà, pourquoi avoir créé Socop? Mais avant tout, c'est quoi Socop?
D'accord. Alors du coup, Socop, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'idée de créer et de promouvoir la révolution mensuelle de toutes les femmes, que les femmes ont leur choix, parce que nous, notre thématique principale, c'est surtout le cycle féminin, la féminité, les menstruations, et essayer de proposer des alternatives saines aux femmes et qu'elles puissent avoir un choix éclairé. C'est-à-dire que nous, au niveau de Socop, on va pas être une secte, entre guillemets, où on va dire, voilà, la cup, c'est ce qu'il y a mieux, etc. Toutes celles qui choisissent pas la cup, elles font l'erreur de leur vie, etc. Ou pareil pour les culottes. On va plutôt essayer de proposer plusieurs alternatives saines, mais que les femmes se sentent toujours libres et de choisir en fait le ou les protections périodiques qui leur conviennent en fonction des étapes de leur vie, voilà, pour le postpartum, pour le retour de couche, pour la vie lambda, entre guillemets. C'est vraiment, voilà, que la femme puisse choisir ce qu'elle souhaite. Voilà. Et j'ai oublié l'autre qui, il y avait deux questions.
Pourquoi avoir créé Socop?
Ah oui. Alors, du coup, moi, pourquoi j'ai créé Socop, c'est qu'à la base, en fait, l'envie d'une longue date convaincue par ce produit-là. Donc, la cup, hein, parce que la marque s'appelle Socop, à la base, je pensais que j'allais vendre que les cups.
Ah, super. C'était ma question suivante. En plus, génial.
Ben, voilà. Et du coup, ça a évolué. Et c'est vrai qu'en fait, c'est surtout l'envie d'une longue date où, je savais, en fait, hein, j'étais salariée avant Socop, et je savais que j'avais en fait, répondre aux ordres, répondre à vraiment... en fait, je savais que le salariat, c'était pas pour moi. Voilà, moi, j'avais besoin de plus de liberté, de vraiment créer le job de mes rêves, etc. Mais j'avais pas d'idée. En fait, je savais que je voulais travailler pour moi, mais il y avait rien qui me faisait vraiment vibrer. À chaque fois, je me disais, ouais, ça, c'est bien, non, ça, c'est déjà vu. Ouais, ça, mais je sais pas si ça va me plaire sur long terme, etc. Et j'avais pas d'idée. Et du coup, en fait, tout a commencé lors d'un séjour. En fait, je venais d'accoucher de ma fille. Et du coup, on était partis en vacances avec ma sœur et ma belle-sœur. Et du coup, ma belle-sœur a eu ses règles. règles et elle était hyper dégoûtée parce qu'elle supporte pas les tampons et du coup elle pouvait pas se baigner, elle était hyper dégoûtée. Et moi j'avais apporté ma cup puisque de toute façon j'allais potentiellement avoir besoin de l'utiliser. Et du coup, je me suis lancée dans une présentation de la cup qui est complètement folle parce que c'est un produit auquel je crois et c'est vrai que moi j'utilise depuis longtemps et à chaque fois que j'en parlais autour de moi, on me prenait pour un extraterrestre. Mais j'adore ce produit, quoi. Et du coup, les deux me regardent comme ça et elles explosent de rire. Elles me disent, mais Sukuna, qu'est-ce que tu fais dans le social? Va vendre des cups. Et elles ont dit ça en rigolant. Et puis en fait, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Bah, c'est là, en fait. Elle est là, l'idée. C'est que c'est un produit auquel je crois totalement. Je sais très bien que je pourrais très, très bien le vendre, même à une personne ménopausée, tellement j'y crois. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait. Elle est là, l'idée. Et du coup, j'ai appelé mon mari. Juste après qu'elle m'a dit ça, et après j'ai dit enfin c'est bon, j'ai trouvé ce que je vais faire, parce que lui il arrêtait pas de m'entendre à chaque fois, je vais entreprendre, ça faisait des années que j'ai disais ça, mais voilà, je savais pas où me lancer et que faire. Et du coup j'ai dit c'est bon, j'ai trouvé l'idée, toute excitée, j'ai dit mais on va vendre des cups, et il devait dire mais c'est quoi cette folle. Et en fait ce pourquoi je le remercie énormément, c'est que finalement moi j'étais toute excitée etc, et en fait il m'a suivi, il m'a dit bah dès que tu rentres on en parle et tout, c'est super, je suis contente que tu as trouvé ce que tu voulais, fonce, on y va. Et du coup, bah, ça m'a tellement confirmée dans mon choix. Et c'est vrai que des fois, moi, ça m'est déjà arrivé d'être super excitée par rapport à quelque chose, un projet ou un truc que je voulais faire, même pas forcément lié à l'entrepreneuriat. Et en fait, la première personne à qui j'en parle, elle a un pouvoir sur moi sans m'en rendre compte. Et du coup, par exemple, ils vont me dire « Ouais, mais... » Et si la personne derrière, en fait, elle est pas très réceptive, un peu négative par rapport à l'idée, etc., bah, ça peut nous mettre dans un mood où on se dit « Ah ouais, peut-être que je me suis trop emballée, puis hop, je passe à autre chose. » Et là, du coup, à chaque fois, je lui dis « Mais merci d'avoir été hyper enthousiaste, etc. » parce que ça m'a confirmé, ça m'a vraiment encore poussé plus à me dire « Bon, bah c'est bon, c'est ça, on y va. »
C'est super parce que vraiment le soutien de toute façon c'est hyper important, même si on a tendance à dire que même si on vous dit que votre projet il est nul, si vous y croyez il faut suivre quand même votre rêve. N'empêche, moi je suis exactement comme toi, je dirais pas que je suis influençable mais un petit peu, et si mon conjoint il va pas rentrer avec moi dans le délire, je me dis, j'ai tendance à me dire ah peut-être que l'idée n'est pas la plus intéressante du monde. Et le conjoint, quand on en a un bien sûr, je trouve que c'est le soutien numéro un, quoi.
C'est vrai, ouais.
Parce que ça va bouleverser finalement, ça va bouleverser la vie du foyer hein, quand on crée aussi une entreprise. Donc, si la personne elle est pas d'accord ou elle nous soutient pas, ça, c'est très compliqué.
Exactement.
Du coup, de ce que je comprends, tu travaillais donc dans une autre boîte avant donc cette idée lumineuse. Du moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as vendu la première cup, combien de temps il s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait de ton ancienne boîte? Comment tu as vu avec ton employeur, etc.?
Déjà, il s'est passé peu de temps parce que c'est vrai que moi, je suis une nana qui est toujours très, très dans l'action. Je vais très, très vite. Ouais. C'est-à-dire, voilà, un exemple concret, mon mari m'a demandé en mariage. En moins d'un an après, le mariage était organisé, la date bloquée, tout était fait, quoi. Et c'est vrai que je suis toujours très, très... voilà, j'y vais. Je me lance, je m'en fiche de faire des erreurs, etc. Donc, il ne s'est pas passé énormément de temps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais assistante sociale. Voilà, je travaillais à l'hôpital en tant qu'assistante sociale. Et au départ, j'ai commencé en micro-entreprise. Donc, c'est aussi un des avantages entre guillemets de la France par rapport à certains pays où on a le droit d'essayer des choses, on a le droit de se tromper, essayer de faire un peu plus sans forcément perdre totalement son boulot, etc. Voilà, j'ai commencé en parallèle de mon activité et du coup en fait il y a juste eu le temps d'attente entre le moment où il fallait que je trouve un fabricant de cup menstruelle, parce que c'est pas moi dans ma maison qui allait sortir une cup menstruelle en silicone médical, donc le temps de trouver l'atelier, de les rencontrer, de voir avec lequel je me sentais le mieux, etc. Il y a juste eu ce temps-là et le temps ensuite d'avoir le moule, parce qu'au niveau de la cup, en fait, c'est un moule à fabriquer et ensuite, on peut lancer la production en série. Et ça, ça a pris à peu près 2-3 mois. Et ensuite, bah, dès qu'on a reçu les cups, c'est parti. Voilà, on a commencé, je dis « on » parce que en fait, finalement, mon mari, depuis le début, il m'a accompagné, il m'a aidé, etc. Et puis là, d'ailleurs, il m'a totalement rejoint et maintenant, on est associés dans l'activité. Mais du coup, c'est pour ça que des fois, je dis « on », voilà.
Je comprends que moi je disais « on » alors que Mathieu n'est jamais rentré dans ma société. Et pourtant, très souvent, avant que Marisa arrive, j'ai tout le temps « on, on, on ». Parce que bah, finalement, ça prenait toute notre vie aussi dans le foyer. Exactement. Donc,
C'est ça.
Du coup, ton mari, donc, il travaillait lui aussi de son côté.
Oui, tout à fait. Donc, il était consultant, il avait son activité. Et c'est aussi ça qui m'a facilité. C'est-à-dire que j'avais pas ce gros stress de me dire, bah, je quitte mon boulot et puis, faut tout de suite que je fasse de l'argent parce que, bah, il y a un loyer à payer. À des charges. Et du coup, ça a été vraiment un privilège hein, que j'ai eu du fait que mon mari gagnait quand même relativement bien sa vie et que juste lui, avec ses revenus, ça permettait de payer les charges. Donc, c'est vrai qu'on allait se faire un peu moins de resto, on n'allait peut-être pas aller en vacances, etc. Mais au moins, les charges étaient payées, j'avais pas ce stress-là. Et là, du coup, je crois que j'ai un peu trop vite parce que...
Non, c'est top. Okay, t'as raison parce que c'est top parce que nous, la question qu'on nous pose tout le temps sur les réseaux, c'est... Comment vous avez fait ? J'ai peur. Si je ne peux pas payer mon loyer, etc. Bien évidemment, on n'a pas tous un conjoint ou une conjointe hein, qui est dans les parages. Ouais. Mais comme je dis tout le temps, préparez votre départ. Ne partez pas comme ça du jour au lendemain et ne pas avoir d'argent en poche. Ouais. On doit tous avoir de l'argent, on doit tous payer un loyer, on a tous des charges à payer. On peut quand même trouver des alternatives, soit économiser pendant plusieurs mois ou voire sur un an, on peut demander aussi une rupture. D'ailleurs, Exactement. Toi, tu as démissionné ou tu as demandé une rupture conventionnelle?
Alors, du coup, comment ça s'est passé? C'est pour ça que je disais aussi, je crois que je vais un peu trop vite parce que du coup, j'ai brûlé un peu les étapes. Voilà, j'ai travaillé en tant qu'assistante sociale et j'ai été soc-up en parallèle. Et au bout de, je crois, 4, 5 ou 6 mois, j'ai complètement arrêté mon activité. Effectivement, j'ai démissionné. Donc là, je t'épargne tous les retours de mes proches parce que j'étais fonctionnaire. Donc, on dirait la super plan que pour tout le monde. C'est et ça. Du coup, on était complètement folle pour vendre des cups, mais sérieux, et si ça marche pas, comment tu vas faire? Tu peux pas. J'ai eu vraiment des retours et je pense que c'était pas, on va dire, c'était pas pour me décourager ou autre, c'était plutôt les personnes qui m'aimaient et qui s'inquiétaient pour moi de me dire,
ils ont peur.
Folle. Ouais, complètement folle. La nana, elle est fonctionnaire, elle a une super planque, etc. Et elle veut tout lâcher. Ouais, vendre des clubs, mais est-ce qu'elle est sérieuse? Et du coup, je pense que c'est plus de la peur et de la crainte et de la bienveillance à mon égard que, les personnes qui veulent t'écraser et veulent pas que tu avances. Là, moi, j'ai pas du tout ressenti comme ça et je suis persuadée que c'était plus de l'inquiétude et de la peur, hein, par rapport à ça. Et, du coup, j'ai ensuite démissionné. En fait, pourquoi? Parce que je m'étais faite la réflexion où, avec ce club, j'en vivais pas au départ, hein, c'était plus mon salaire qui m'aidait. Mais, en fait, j'étais pas à fond dedans, j'étais peut-être à 20% de mon énergie puisque je bossais, 9h, 5h, ensuite j'ai rentré et ma fille récupérait à la crèche, etc. On rentrait vite dans le quotidien, du coup je me consacrais beaucoup le soir dessus et le week-end, mais du coup je devais être peut-être à 20% de ma vie sur SoCup. Et en fait je m'étais faite la réflexion, avec 20%, j'arrive quand même à générer des produits se vendent, j'arrive quand même à générer de l'argent, mais du coup en fait si je suis à 100% dedans, est-ce que ça va pas être mieux? Et du coup, en fait, vraiment sur un coup de tête, je me suis dit, allez, j'arrête, je peux plus. Et c'est vrai que mon travail aussi était vraiment épuisant. Voilà, je te laisse imaginer le climat, hein, le travailler dans le social, dans un hôpital, qui est clairement hôpital public où l'État restreint de plus en plus, où la politique aussi commence à changer. C'est-à-dire que, ce qui est dingue, c'est que nous, notre directeur, en fait, notre chef de service, il était nommé directeur de la performance. Et moi, ça m'avait, le terme, m'avait choqué. On parle d'un hôpital. Et même, des fois, il parlait de clients dans les réunions, alors que c'est des patients, etc. Et on était vraiment dans une dimension, qui me plaisait plus du tout. Et c'est pas pour ça que j'avais commencé social. Et là, je le voyais. En fait, je commençais à être vraiment épuisée. Et puis, j'étais tellement aussi ailleurs aussi avec SoCup que je commençais aussi à faire des bourdes, même au niveau du travail, etc. Et à un moment, je me suis dit, non, en fait, je suis plus alignée avec ce que moi j'attendais du travail social. Je m'y reconnais plus du tout. Et là à côté j'ai mon petit business qui me permet de générer un petit peu de revenus. Si je me mets à 100% dedans, est-ce que ça va pas être mieux? Et du coup voilà, j'ai démissionné et puis je me suis lancée à fond ensuite dans SoCup.
J'ai l'impression de me reconnaître vraiment en toi, c'est assez drôle, parce que tu parles d'une façon hyper passionnée, comme on fait avec Marisa. C'est-à-dire que je te pose une question, c'est comme avec Marisa, hop, tu parles, tu racontes tout, tu rentres dans les détails, c'est ce que les gens, ils aiment aussi entendre. Moi, je pourrais t'écouter là pendant une heure, parce que je vais faire de toute façon, moi, de mon côté. T'es hyper passionnée, c'est super chouette, franchement, c'est hyper agréable de t'écouter. Et vraiment, je me reconnais beaucoup en toi, en cette énergie de se dire, de toute façon, sur un coup de tête, moi, je lâche, sur un coup de tête, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, la vie, c'est pas une fatalité. Si ça marche pas, entre guillemets, Enfin, il y a tellement d'autres choses à explorer dans le monde. C'est super chouette. Du coup, quel a été du coup ton parcours de création? C'est-à-dire du moment où tu as dit « je commence à créer donc SoCup ». Donc, tu as commencé déjà à créer un moule. Tu as été voir un petit peu des fournisseurs.
Ouais.
Combien de temps donc ça a mis, par exemple, pour… Non, tu m'as dit ça a mis à peu près 6 mois entre le moment où tu as décidé et le moment où tu as lancé ton site web. Qui a créé le site web, par exemple, des choses comme ça?
D'accord. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre. Bon, moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai un souci avec les dates. C'est un peu vague. Donc, peut-être que tout ne sera pas exactement ce qui s'est passé comme ça s'est passé. Mais alors, du coup, ça a commencé quand j'étais en voyage avec ma sœur et ma belle-sœur. Ouais. Donc, ça, c'était septembre 2016. Voilà, septembre 2016. Donc ensuite, de retour de vacances, tout de suite, on a commencé avec mon conjoint à essayer de trouver des solutions. Et à la base, ce que je voulais faire, c'est que, en fait, moi, j'avais peur. Je me suis dit, je vais pas lancer ma marque. Ça me paraissait trop compliqué. Et puis, j'avais cette notion de, voilà, comme les cups sont en silicone médical, j'imaginais un truc, il fallait un laboratoire, des... autorisation, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très, très étonnant, une petite parenthèse, c'est qu'au niveau du marché, entre guillemets, des menstruations, c'est très inquiétant puisqu'il n'y a aucune réglementation. C'est-à-dire que c'est quand même un produit qu'on va mettre dans le vagin des femmes, la cup, et il n'y a aucune réglementation. Ce n'est pas considéré comme un produit de dispositif médical, donc on peut faire tout et n'importe quoi. J'aurais pu importer des cups de AliExpress, faire un petit branding et les revendre, et je n'aurais eu aucun problème légalement au niveau réglementaire. Et c'est hallucinant, quoi. Moi, ça me révolte de se dire que voilà, on va mettre des choses dans le vagin des femmes sans que ça soit contrôlé, testé. On n'en a rien à faire. Pareil pour les tampons, hein. C'est arrivé les scandales avec quand on a compris de quoi étaient composés les tampons, les serviettes hygiéniques, etc. Et je trouve ça révoltant que n'importe qui peut mettre n'importe quoi dans le vagin des femmes et que ça inquiète personne, quoi.
Oui, bah, tu m'en apprends une parce que je savais pas du tout. Moi, je trouvais que c'était hyper réglementé. Je pensais que pour faire ça, je pensais que tu allais me dire qu'il faut faire je ne sais combien de tests en laboratoire.
Et non. Et c'est dingue. C'est vraiment, moi, ça me révolte. J'ai été choquée. Et justement, tout comme toi, je croyais que quand même, il y a une grosse réglementation dessus. Et en fait, pas du tout. C'est là que je me suis rendu compte, voilà, que limite, je pouvais acheter des cups, sur AliExpress, les revendre, aucun problème, etc. Tant que la société était déclarée, je pouvais faire tout et n'importe quoi. Mais bon, moi, l'idée, c'était pas de proposer de la merde aux gens. Donc, voilà, on a vraiment voulu faire les choses de manière carrée. Et c'est vrai que, comme je te disais, j'imaginais que c'était un truc de fou qu'il fallait faire. Mmh. Et du coup, dans un premier temps, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être être ambassadrice d'une marque de cups menstruels et puis distribuer leurs produits et puis me faire un petit complément de revenu comme ça. Donc, j'ai contacté plusieurs marques, en fait, mais je pense que le mail, je l'ai plus. Mais c'est, j'aurais bien voulu le relire parce que je crois que j'avais raconté, mais tout et n'importe quoi parce que j'étais dans l'excitation. Mais une nana qui a même pas d'entreprise, etc. Elle me dit, mais c'est quoi cette folle? Et en fait, personne n'a répondu. Mais je comprends aujourd'hui avec le recul. Et sur le coup, je me dis, non, mais c'est dingue. Moi, je vais distribuer leurs produits. Ils me répondent pas. Non, mais n'importe quoi. Ils savent pas ce que je vais faire, moi, et tout. Et j'étais dans mon délire. Et finalement, aujourd'hui, 3 ans, 4 ans après, je me dis, mais oui, en fait, je comprends pourquoi personne m'a répondu. Et au final, ça a été un mal pour un bien, puisque je me suis dit, vous pouvez pas en répondre. Tant pis pour vous. Moi, je vais lancer ma cup Made in France. Et puis voilà, tant pis pour vous si je vous dépasse tous. Et voilà, c'est parti comme ça. Et du coup, voilà, on a cherché des usines, etc. Et puis voilà comment ça s'est fait. Donc ensuite, j'avais hésité entre deux entrepôts, deux laboratoires, deux lieux de fabrication. Et du coup, moi, je fonctionne énormément au feeling. Et du coup, on a pu les rencontrer. Et puis, il y en a un avec lequel j'ai eu un énorme feeling. Et voilà. Et c'était un entrepreneur. Et en fait, finalement, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que cet homme-là, il a été comme un mentor pour moi, parce que moi, je venais de débarquer, donc voilà, c'était mon premier rendez-vous d'affaires, entre guillemets. J'allais présenter le projet que je voulais, une cup, définir comment je la voulais, etc. Et cette personne-là, en fait, quand je l'ai rencontrée, il me dit, mais c'est dingue, en fait, la passion que tu as, etc. J'ai l'impression de me revoir il y a quelques années. Donc, tu es, en fait, cette personne. Maintenant, elle a une entreprise, voilà, elle travaille dans le silicone. Donc, la plupart de leurs clients, c'est dans le domaine médical. Donc, ils font peut-être les prothèses pour le cœur, etc. En gros, c'est une société multimillionnaire qui cartonne, etc. Très, très connue en France. Et du coup, très connue dans le domaine. Moi, je ne connaissais pas avant. Mais okay. Du coup, en silicone, etc., c'est vraiment un leader et c'est une société multimillionnaire. Vraiment, un monsieur qui est parti de rien et qui a fait fortune, et c'est une entreprise familiale. Parce qu'aujourd'hui, sa fille, etc., ben voilà, c'est une entreprise familiale. Il me dit, j'avais vraiment l'impression de me revoir. Et du coup, en fait, il m'a dit quelque chose d'incroyable. Moi, j'étais vraiment inspirée par tout ce qu'il me disait, etc. Je buvais ses paroles. Et on s'est rencontrés juste une fois. Donc ensuite, il y a eu le repas d'affaires. Et puis ensuite, bah, c'est parti. On a lancé le truc. Et après, j'ai plus du tout eu de nouvelles de ce monsieur-là. En fait, lui, il a juste fait, entre guillemets, signer le contrat, m'apporter, me montrer un peu bah, comment il fonctionnait, me montrer bah, les ateliers, l'équipe, etc. Mmh. Et puis après, c'est l'équipe qui a repris le relais. Et c'était incroyable, quoi. Et à la fin, en fait, de notre rendez-vous, donc moi, j'étais un peu bloquée parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'économies. Et pour fabriquer le moule, il fallait à peu près 10 000 euros, si je me trompe pas.
Ah oui, quand même. Taxes,
ou TTC, mmh. Bref. Et moi, j'avais pas beaucoup d'économies, hein. J'étais très dépensière à l'époque. Donc, du coup, j'avais pas trop d'économies. Donc, je crois que moi, en fait, d'investissement personnel, j'ai dû mettre 2-3 000 euros. Et je voulais surtout pas faire appel aux banques, ni faire une campagne, mmh. Tu sais, Ulule, etc.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, bah, comment je vais me débrouiller? Du coup, mon mari, bah, m'a fait confiance et m'a prêté une partie. Et ma sœur aussi m'a prêté une partie. Donc, je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à eux aussi que ce cas a vu le jour. Et du coup, j'ai pu payer le moule. Sauf qu'après avoir payé le moule, bah, il fallait fabriquer les produits en série. Et donc là, en fait, il m'a fait un cadeau énorme. Hein, je le remercierai jamais assez. Il m'a dit, en fait, je crois tellement votre projet, vous êtes tellement passionné, etc., que bon, on n'a jamais fait ça, mais on va le faire pour toi ou pour vous. Je ne sais plus si on vous voyait ou tutoyait, enfin bref. Et il me dit, bah, du coup, on va t'offrir les 600 premières cups pour que tu puisses démarrer.
Waouh!
Incroyable, mais vraiment, je suis. Oh, et là, merci, oh là là, mais j'allais prendre dans mes bras, quoi. J'étais tellement touchée par le fait qu'ils me fassent confiance, que c'est un risque aussi pour eux, etc.
Ouais.
Et du coup, bah, j'avais cette pression de me dire, non, je peux pas les décevoir, va falloir les vendre, ces 600 cups. Et voilà, et puis en 3-4 mois, elles ont été vendues, donc on a pu faire une nouvelle commande, etc. Et c'est vrai que j'avais ce truc où, comme si, en fait, pourtant, on n'avait rien signé, lui m'avait dit ça, et finalement, j'aurais pu ne pas marcher, et puis je pense que ça s'en aurait remis, et puis voilà. Mais du coup, je me disais, mais je peux pas le décevoir, mmh. En fait. Du coup, bah, il y avait l'investissement de ma sœur, mon mari, déjà, il fallait que je les rembourse aussi, hein, c'était un prêt, c'était pas une donation. Et ouais. En parallèle, il y avait aussi ce monsieur. Et finalement, je me disais, mais il y a trop de gens que je ne peux pas décevoir, que je dois y aller, on y va. Voilà.
Mais en fait, c'est super parce que ce que tu es en train de décrire là, c'est les belles rencontres de l'entrepreneuriat. Et c'est ça que on a tendance à oublier quand on va me dire encore une fois, j'ai peur de me lancer, j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, etc.
Ouais.
Ce qu'on a tendance à, et même moi, hein, la première, tu vois, en 5 ans, je pense que c'est rare que je parle du fait qu'on a toujours des belles rencontres qui nous poussent aussi à avancer. Et parfois, c'est des gens qui nous connaissent même pas. C'est
exactement.
Souvent d'ailleurs ceux qui nous connaissent le moins qui peuvent avoir confiance en nous parce qu'ils ont senti notre énergie, l'espèce de flamme là qui nous anime à l'intérieur et ils croient en nous. Et exactement. C'est super parce qu'en fait, à la base, à part ton moule, bah, t'aurais pas pu faire grand chose avec tes... avec tous les produits parce que bah t'avais pas spécialement le budget et juste parce que cette personne elle croit en toi, bah elle te donne vraiment l'élan en fait pour commencer. Et ça c'est
exactement.
Vraiment c'est une belle histoire quand même.
Oui,
c'est chouette.
Quand j'y repense, je me dis mais c'est dingue quoi, c'est incroyable toutes ces rencontres. Et il y en a eu plein d'autres hein, qui m'ont vraiment poussé, qui ont donné de l'élan, etc. Et c'est vrai que c'est un beau chemin, vraiment l'entrepreneuriat. Voilà, moi j'en garde que du positif. Et même si ça n'avait pas finalement, ça n'avait pas pris, ça n'avait pas marché, etc. Juste de ces belles rencontres, du fait que j'ai osé, que j'ai fait quelque chose, ben je pense que je n'aurais pas eu de regrets en fait. Et au final, je leur dis ah ben maintenant je sais. Comment, en fait, de partir de rien, on peut construire quelque chose et j'aurais rebondi sur autre chose ou autre. Mais c'est vrai que finalement, c'est le plus dur, c'est le risque d'essayer. Mais au final, il y a tellement à gagner que voilà, que ça marche ou que ça marche pas. Hein. Finalement, voilà, faut oser. Hein.
C'est clair. Et du coup, tu as vendu tes cups, les premières.
Oui.
J'imagine que c'est pas le même site que tu as actuellement.
Ah non, pas du tout. C'est vrai que au départ, en plus, c'est vrai que ça a été aussi, voilà, ça c'est un conseil si je peux donner aux personnes, c'est que moi j'attendais qu'à peu près tout soit parfait avant de lancer. Donc c'est vrai qu'au départ, voilà, ce qu'on a fait, il y a eu le moule et ensuite il y a eu la partie un peu d'identité visuelle où on a commencé le logo, un peu, bah voilà, l'univers de la marque, etc. Et une fois qu'il y a eu ça, après je me suis dit non mais maintenant il faut un site, on peut pas vendre si on n'a pas de site. Ensuite on peut pas. Et après il y a toujours un truc au final. Après il fallait le packaging, ben on va pas vendre les cups comme ça, on va pas les donner à la main comme ça aux gens, puisque nous, ils étaient envoyés en vrac, hein, dans un emballage plastique, etc. Après, ben, il faut peut-être faire une notice, etc. Et en fait, il y a toujours un truc. truc. Et au final, les jours et les jours passaient. Et au final, bah, j'avais les cups qui étaient là. Et je vendais pas parce que j'attendais le ci, parce que j'attendais ci. Après, il fallait le packaging, après, etc. Et au final, ce qui m'a un peu plus ou moins aidée, c'est qu'il y a eu en fait un reportage sur France 5 sur les tampons. Tes tampons, notre ennemi intime. Et du coup, bah, ce reportage, il a fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux où il a été très partagé, etc. Et les gens disaient, ouais, mais on fait quoi maintenant? C'est quoi la solution? Et du coup, moi, je me disais, mais moi, j'ai la solution, j'ai la cave, etc. Et au final, et bien, d'un coup de tête, en voyant ce reportage, je me suis dit, mais c'est un signe, on y va. Et en fait, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. Vraiment, on a commencé, on avait les cups, il n'y avait pas de packaging. J'ai demandé à une amie couturière, est-ce que tu peux me faire des petites pochettes en wax, etc. Mais un truc, aujourd'hui, quand je pense avec le recul, je me dis, mais on a fait ça et on a vendu comme ça. C'est incroyable. Comme quoi, il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour y aller, quoi. Et du coup, voilà, mon amie couturière a fait quelques petites pochettes comme ça. Après, je crois que j'en avais acheté aussi sur AliExpress des petits pochons. Faisais le tampon, mais manuellement, un tampon, j'ai pris chez Radia. Vraiment du bricolage. Et au final, on a lancé comme ça en avril 2017 ou mai 2017 les réseaux sociaux et on est parti. Et en fait, on a rebondi sur ce truc du reportage sur les tampons. Et du coup, voilà, nous, on a la solution, c'est la queue. Mais au final, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. Donc, comment
mais
ça
du coup,
passé...
tu demandais comment?
Voilà, ah, oui, voilà comment super. Ça se passait pour la vente? Ça se passait en message privé. Mais les gens me faisaient confiance. Ils me disaient, mais n'importe quoi. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais mince, on nous a fait confiance. Comme quoi, quand on est passionné, qu'on a une femme ou autre, ça se ressent. Et cette énergie doit se ressentir.
Mais c'est ce que j'allais te dire. Ça revient vraiment à ce que... à l'épisode qu'on a fait avec Marisa, qu'on a enregistré hier, sur comment réussir dans l'entrepreneuriat en 2021. Et en fait, ça revient vraiment à ça, c'est que on ne vend pas un produit. On vend pas que un seul produit, en fait. On vend une énergie. Exactement. On vend une passion. Et les gens, ils l'ont ressenti. Et en plus, c'est drôle que tu me dises en MP, parce que s'il y avait une erreur que je dirais en 2020-2021, c'est de vendre par MP. Quand il y a des personnes qui me disent sur Instagram « Coucou Isadora, je suis créatrice de tel produit » et que je vais lui dire « Oui, on peut acheter où ton produit ?»« Ah bah on m'envoie un message en privé ?» Ça c'est chaud ça. En 2020-2021, me demander de dire à mes abonnés de passer en message privé,
c'est clair.
Ça se fait plus. Ça prouve que ça a vraiment évolué aussi.
Exactement.
La vente, parce qu'à l'époque, on le faisait facilement, ça.
Oui, c'est ça. Et là, c'est pour ça que je rigole aussi quand maintenant que j'en parle, parce que je me dis, mais aujourd'hui, je me dis, mais comment on a réussi avec ça, quoi? Et moi, la première, mais quelqu'un qui me dit, mais passe en MP pour passer une commande, tu donnes, c'était en plus un lien PayPal, machin, donc tu devais payer par carte bleue, tu devais se débrouiller, nous, c'était par PayPal et rien, etc. Mais c'était un micmac, mais pas possible. Et on a quand même fait des ventes comme ça, quoi. C'est dingue. Et en parallèle de ça, je faisais aussi des petites ventes un peu façon Tupperware, où je disais à mes copines, bah, invite tes copines chez toi et tout, t'inquiète, je m'occupe de la collation, c'est moi qui la ramène, comme ça toi t'as rien à dépenser et on va faire une petite après-midi, un petit truc comme ça et on va parler des règles, des menstruations et moi je vais présenter mon produit. Pareil, c'était un PowerPoint mais éclaté, vraiment il était mais trop mal fait, tu sais, des images Google Images très mal. En fait il n'y avait pas de design, moi j'avais pas les moyens de payer un graphiste, etc. Et c'était du bricolage et c'est très drôle parce que là mon ordinateur est arrivé à saturation, donc j'ai dû supprimer des choses et j'ai revu ce PowerPoint et je l'ai ouvert, je savais même pas, parce que le nom du fichier en fait ça me disait rien, je me disais c'est quoi ce truc, je vois réunion socap, je me dis c'est quoi, et j'ouvre et je vois ça, je me dis oh, mon dieu. Mais j'ai présenté ça, j'ai montré ça, mais c'est pas possible. Et plus je tournais, plus c'était catastrophique. J'ai dit, oh là là, mon Dieu. Et j'ai fait ça, moi. Mais c'est incroyable, des fois, on oublie, en fait, parfois, d'où on est.
Le parcours, voilà, c'est génial.
Le parcours, parce que c'est tellement exponentiel, etc., que là, finalement, aujourd'hui, SoCup, c'est une entreprise avec plusieurs personnes qui travaillent, etc. On est un site, on est équipe informatique, on a machin. Et revenir, en fait, au début, où je me dis, mais oh là là, mais heureusement que ma graphiste, elle n'a pas vu ça. Elle m'aurait défoncé, etc.
Mais c'est ça qui est, je trouve, qui est génial, parce que dans un podcast qu'on a fait il y a quelques mois maintenant, on parlait de... justement de comment on commence quand on veut être entrepreneur. Et c'est vrai que de nos jours, on entend souvent les jeunes qui veulent entreprendre dire tout de suite, moi, je vais déléguer, je vais rien faire, je vais avoir une équipe derrière moi, etc. Et en fait, encore une fois, je me reconnais vachement en toi dans le côté... On fait tout tout seul avec les moyens du bord, sans gros budget. Quand on regarde, nous aussi, avec Marisa, des trucs qu'on avait, des mails qu'on pouvait envoyer il y a au moins 3-4 ans en arrière, on rigole parce qu'on se dit oh, on a osé faire ça. Des flyers qu'on faisait, mais tout le monde, on se dit mais on a osé faire ça. Mais en fait, on a osé justement, on a osé tout faire nous-mêmes sans avoir d'équipe derrière.
Et
du coup, j'en profite parce que du coup, ce que je comprends, c'est que vous étiez finalement deux, ton conjoint et toi, à faire un peu un micmac pour vendre vos cups. À quel moment tu t'es dit que tu vas déléguer ? Combien de temps tu as fait ça seul avec ton conjoint, avec son aide, etc. Combien de temps ça a mis ? D'accord. C'est quoi le parcours ?
Alors ça a duré plus d'un an, un an à peu près, grosso modo, où on était, où j'étais toute seule et mon mari aussi en coup de pouce. Voilà. Et puis ensuite, voilà, bah, j'envoyais les colis. Donc ensuite, on a eu un site quand même. Les messages en MP, ça a duré 2 mois. Voilà.
Ça va.
Voilà, 2 mois, je crois. Ensuite, on a fait un premier site. Et pareil, bah, j'avais pas beaucoup de budget, donc on avait pris une personne. Finalement, le site, pareil, il était très brouillon. Il y avait toujours des bugs. À chaque fois, on avait besoin d'aide, etc. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû payer un peu plus une fois un bon prestataire qu'essayer d'avoir toujours le moins cher. Voilà, ça, c'est une erreur aussi que j'ai faite. Et finalement, comme voilà, un proverbe d'une amie antillaise qui me dit souvent, elle dit, mais tu sais, ce qu'on a, le bon marché coûte cher. Aux Antilles, on dit souvent ça. Et, au final, c'est vrai parce que bah, le fait de vouloir toujours prendre le bon marché, bah, t'as encore besoin parce qu'il y a des bugs, parce que les choses ne sont pas bien faites. Et finalement, ça te coûte plus cher que si tu avais investi une fois. Mais après, la difficulté, c'est qu'au début, bah, tu n'as pas forcément l'argent pour investir, etc. Mais c'est vrai que même le premier site, ce n'était pas encore ça. Mais voilà, on a réussi à faire quelques ventes, etc. Donc, c'est moi qui m'occupais des envois avec des petites solutions. Je peux citer hein, les petites solutions qu'on utilisait ou pas ?
Ah, donc, tu fais vraiment, tu fais comme chez toi.
Voilà. Donc, au départ, on avait commencé avec SendCloud. Donc, c'était une solution qui se rajoutait sur ton site et qui permettrait voilà, d'imprimer automatiquement les étiquettes, Colissimo, etc. Je crois que c'était Colissimo, il y avait un colis privé. Bon, bref. Et on avait commencé comme ça. Donc, ensuite, bah, voilà, c'est moi, tous les jours, j'allais à la poste, etc. J'avais eu, au bout d'un moment, bah, le monsieur me voyait tout le temps, il me dit, mais en fait, vous êtes professionnelle. Je lui dis, non, mais moi, je suis une micro-entreprise. Donc, voilà, à chaque fois aussi, il y avait ce truc où je me considérais pas vraiment comme une entreprise au départ. J'étais auto-entreprise. Donc, voilà, j'étais tout seul, je faisais mon petit bout, quoi. Il me dit, mais non, mais vous avez un numéro de Siret? Oui. Ah, bah, voilà, ils m'ont pris ensuite un rendez-vous. Ensuite, avec le volume que j'avais, en fait, finalement, moi, je crois que c'était un petit truc. Il me disait, mais c'est très bien, on travaille avec des gens qui ont des contrats pro, ils font pas votre volume, etc. Donc voilà, j'ai pu mettre en place un contrat, j'avais la carte professionnelle, donc voilà, j'étais prioritaire quand j'allais à la poste, etc. Et voilà, ça s'est pris petit à petit. Et en fait, où j'ai vraiment compris que c'était important de déléguer, qu'on pouvait pas tout faire, c'est quand en fait le volume de commandes a commencé à être de plus en plus conséquent, où finalement bah, c'était plus gérable tout seul. Et, on était passé en fait un moment par la solution FBA d'Amazon. Du coup, qu'aujourd'hui, et en plus, je ne sais pas si je recommanderais, mais nous, ça a été un bon tremplin. On s'est rendu compte à quelqu'un peut envoyer à notre place, au final.
FBA, c'est quoi le concept de FBA d'Amazon?
Au final, tu leur envoies les produits, donc eux, ils les stockent. Ouais. Et ensuite, soit ils s'intègrent sur ton site, mais nous, ce n'était pas possible, comme c'était un site qui était très compliqué, donc ils n'arrivaient pas à s'intégrer dessus. Soit, en fait, manuellement, nous, le soir, on leur envoyait les commandes qu'on avait. Et ensuite, c'est le service d'FBA qui les envoyait avec leur livreur, etc. On n'avait plus rien à faire et ensuite, eux nous envoyaient un mail avec le numéro de suivi et ensuite, nous renvoyaient le mail au client. Voilà, on a utilisé ensuite cette solution-là et en fait, là, moi, j'ai compris que ça pouvait me libérer énormément de temps parce que finalement, faire les colis, imprimer le machin, l'étiquette, penser à avoir de l'encre, penser à acheter les cartons, le scotch, etc. En fait, ça prend énormément de temps et c'est assez chronophage parce que pendant ce temps-là, bah, je suis pas en mode développement, création, etc. Exactement. Dans l'entreprise. Mmh. Et du coup, bah, dès qu'en fait, on a eu ce petit truc avec Amazon, on s'est dit, ah ouais, en fait, ça me libère beaucoup de temps. Et là, je peux vraiment faire mon cœur de métier, développer ma marque. Et finalement, bon, on s'est rendu compte comme ça qu'au final, déléguer au bout d'un moment, ça coûte de l'argent, mais c'est la base, puisqu'au final, bah, ça te permet, toi, d'économiser du temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent, et du coup, d'optimiser plus et, en fait, gagner plus. Au final, on n'a jamais fait des meilleurs chiffres que quand on a commencé à déléguer. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'une nouvelle personne intégrait l'équipe, on gagnait plus, on vendait plus, etc. Et au final, on s'est rendu compte de ça, que plus l'équipe est grosse, plus il y a un cerveau collectif, plus on est plusieurs et plus les choses voilà, vont plus vite, en fait.
Mais c'est tout à fait ça, parce que nous, quand on était avec Marisa, nous, on a fait tout toute seule pendant, je pense, 3 ans, je crois, un truc comme ça. Et du jour où on a pris, par exemple, on a commencé par la plateforme logistique, mais nous, on avait peur. Ça veut dire qu'on a décidé de signer avec la plateforme logistique en décembre. En janvier, on se disait, tout cet argent qu'on va leur donner, c'est chouette, parce que finalement, sinon en plus, c'était une plateforme logistique. C'est toujours d'ailleurs qui emploie des personnes qui sont en situation d'handicap ou de réinsertion professionnelle. Donc c'est vraiment top, c'était un choix qu'on avait fait. Mais à côté de ça, on se disait, bah c'est pas gratuit. C'est quand même un gros une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Et on se disait, mon Dieu, comment on va faire pour avoir des ventes, devoir nous payer nous et en même temps payer cette grosse structure. Et finalement... Et ça, on l'a déjà dit aussi plusieurs fois sur YouTube, etc. Du moment où on est passé par la plateforme logistique, on n'a jamais eu autant de commandes, autant de chiffres d'affaires. Tout simplement parce qu'en effet, nous, on passait trop de temps à faire les commandes nous-mêmes. Du coup, on faisait beaucoup moins la communication. On était peu présents sur les réseaux sociaux parce que c'était hyper compliqué. Puis on passait beaucoup, du coup, de temps à travailler. Parce que du moment où tu fais les commandes, après, il faut aller sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était hyper chronophage. Et donc, c'est vrai que déléguer, c'est hyper important. Comme je dis toujours, pas tout de suite au début, parce qu'il faut d'abord voir comment ça prend, etc. Mais au moment où on peut, où on se le sent, où on est prêt, franchement, déléguer, c'est vraiment la clé. Exactement. T'as raison.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, nous aussi, c'est à partir du moment où... Parce qu'encore, Amazon, c'était un petit peu encore du bricolage. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris que, en fait, les gens peuvent faire à notre place et aussi bien que nous. Parce qu'aussi, il y a cette vision que maintenant, je sais, moi, c'est mes produits, c'est moi ce cœur, c'est moi, il n'y a personne qui sait fermer une boîte mieux que moi. En final, je n'ai pas arrivé limite à ça. Et déléguer ça, laisser ton stock à quelqu'un d'autre, etc., ça a été anxiogène pour moi les premières semaines, quoi. C'est clair. Et finalement, nous aussi, on a fait appel à une structure d'insertion. Et au final, j'étais super contente parce que, ancienne assistante sociale, je revenais un peu au fait que, on va aider des personnes en difficulté. Grâce à nous, ils vont avoir de l'emploi, grâce à nous, etc. Et super content, et puis l'équipe logistique au top aussi. Donc à partir du moment où vraiment ça a été une vraie structure logistique qui a commencé à gérer les commandes, pareil pour nous. Et c'est vrai que pour la délégation, faut pas déléguer trop tôt, mais pas non plus trop tard. Il faut trouver juste l'équilibre. Parce que le truc, c'est aussi de se dire, si je délègue trop tôt, je paye tout le monde sauf moi, ça ne sert pas à grand chose. Et si j'attends, parce que peut-être dans mon esprit, personne ne sait faire mieux que moi, personne machin, au final, je vais m'épuiser et plus faire ce que j'aime. Et moi, je me souviens à un moment que je prenais plus plaisir au niveau de Sauvegarde, parce qu'entre les envois, le service après-vente, en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas tout faire, quoi. Et voilà. Et du coup, la petite étape, là, c'est de se rappeler, elle est très violente. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Ça a été violent de me dire, je vais laisser quelqu'un d'autre faire, je vais laisser quelqu'un d'autre manier mes produits, faire le packaging, etc. Parce que les produits, ils n'arrivaient pas totalement finis. C'est-à-dire qu'on avait le packaging d'un premier fournisseur, ensuite, on avait les pochettes d'un autre fournisseur, on avait la notice d'un service d'impression, on avait les cups du fabricant, etc. On n'avait pas un produit qui arrivait tout fait, déjà code barré, déjà prêt à être expédié. Donc, il y avait aussi cette étape-là où moi, j'avais l'impression que c'était un truc de dingue et qu'avec moi, qui avais compris qu'il fallait monter le packaging, mettre la note. Mais c'est incroyable comment j'ai du mal à déléguer.
Mais en même temps, t'imagines la pression que c'est de te dire que tu vas vendre quelque chose que c'est pas toi qui a mis dans une boîte. Enfin, c'est toi, mon débit. Je suis sûre que les gros entrepreneurs doivent rire s'ils nous écoutaient. Oui. Je pense pas. Parce que moi, j'étais pareil que toi avec Snackies. Ça faisait 3 ans que je faisais mes boîtes tous les jours, toute seule, avec Marisa, bien sûr.
Oui.
Tous les jours. Le jour où on a dit, on prend une plateforme, mais au début, ils ont dû se dire, mais elle nous saoule, celle-là, parce qu'à chaque fois, c'était, montrez-moi une photo, envoyez-moi une photo pour montrer, est-ce que je peux venir à la plateforme logistique pour voir un petit peu comment ça se passe. J'étais chiante parce que je me disais, il faut que les clients ne voient pas la différence entre ce que moi j'ai fait et ce que eux, ils font. Même s'il y a une différence en mode c'est mieux, tant mieux, mais pas avant, quand c'était Isadora et Mara, c'était mieux. Donc voilà, c'était vraiment ce stress qu'on a eu. Je pense, c'est vrai qu'il y a un gros stress, mais qui ne dure pas finalement très longtemps. Je pense que je dirais un mois, et après, c'est un soulagement. Exactement. Après, on revit, quoi.
Ouais,
et tu as raison pour dire que pas déléguer trop tard. Nous, avec Marisa, si on devait dire une erreur qu'on ait faite, c'est de déléguer trop tard, parce qu'au bout de 3 ans, on aurait pu déléguer bien plus tôt
ouais.
pour nous permettre de souffler
exactement.
Et de développer l'entreprise plus tôt.
Ouais, exactement.
Bah, et du coup,
c'est vraiment miroir, hein, tout ce que tu dis, parce que c'était pareil. Hein, je pense que j'ai été, je sais pas s'ils ont une cliente plus relou que moi, mais effectivement, ouais, c'était exactement pareil.
Ah, mais c'est fou, mais franchement, depuis tout à l'heure, je t'écoute, je me dis, j'ai l'impression de vivre le même parcours professionnel, et c'est chouette parce que nos abonnés, ils ont l'habitude de nous entendre, nous.
Ouais.
Et peut-être qu'ils vont se dire à force, oui, c'est bon, c'est pays des bisounours, ça nous font croire qu'on peut partir de rien et après pour en vivre. Oui,
ouais.
c'est vrai. Mais et du coup, si tu donnes encore une fois un exemple de quelqu'un qui est parti de rien entre guillemets, de pas grand chose,
oui.
à créer une super entreprise. Et du coup, pour rebondir, tu es passé par une plateforme logistique.
Oui.
Actuellement, tu as une équipe. Je me doute bien.
Oui.
Qui fait quoi? Combien t'as de personnes derrière avec
ouais.
toi? Est-ce que c'est des freelances? Est-ce que des salariés? Voilà, qu'est-ce que
D'accord.
qui est derrière Talkup?
Ok, alors du coup, on a une community manager, donc en freelance. Oui. On a ça aussi, ça a été un soulagement pas possible parce
Mais
que c'est
oui,
vrai que au final, moi, c'était pas mon métier hein, de créer du contenu et au final, voilà, avoir une vraie stratégie sur les réseaux sociaux, nous on publie un peu comme ça au fil de l'eau,
bah,
des
oui.
aventures de Talkup, etc. Et au final, ça aussi, ça a énormément soulagé. Pareil pour la modération, etc. Ensuite, on a une personne chargée du service client et là, on va recruter prochainement puisque là on se rend compte que ça suffit plus juste une personne voilà qui à la base était client de Talkup donc voilà encore une fois un hasard de voilà une belle rencontre hein, qui voilà c'est d'ailleurs été la première qu'on a embauchée. Ensuite le service logistique finalement pour moi ça fait partie de l'équipe parce qu'on échange tous les jours avec eux. Charlène du coup, qui s'occupe du service client échange tous les jours également avec eux et grâce à nous ils ont pu aussi embaucher plus de personnes parce que voilà elle nous a dit que clairement on était son plus gros client et du coup ça a permis voilà l'emploi de plusieurs personnes en plus qui étaient aussi loin de l'emploi puisque c'est une structure d'insertion etc. Donc pour moi c'est des membres de l'équipe hein, on partage tout le temps avec eux et ensuite il y a les différents ateliers avec lesquels on travaille voilà pour la fabrication des culottes. Donc au départ on était juste avec un atelier français, désormais on a trois ateliers avec qui on travaille, avec qui on échange tout le temps. Pareil hein, ils ont dû embaucher des couturières pour nous, une modéliste, etc. Donc au final pour moi tous ces gens font aussi partie de l'équipe. Ensuite il y a mon mari du coup qui s'occupe principalement de la partie B2B. Et moi, je m'occupe un peu plus de la partie B2C et la partie influenceur, etc. Le marketing, voilà, un peu une grosse partie du marketing également. Voilà. Ça, c'est une partie que j'avais déléguée deux fois et les deux fois, ça a été trop moyen et du coup, c'était pas comme moi je voulais. Donc après, je pense qu'il y a plusieurs concours de circonstances qui ont fait que. Et finalement, bah, pour l'instant, je garde cette partie. À moyen long terme, je la déléguerai. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé la perle à qui je pouvais vraiment déléguer cette partie-là parce que voilà, j'ai une vision claire de ce que je veux. Et puis pour moi aussi, au niveau des influenceurs, etc., c'est vraiment de le faire de manière à ce que ça soit pas juste bon, bah voilà, tu partages le truc, tu mets ton code promo, on s'arrête là. Non. Moi, je crée vraiment des relations avec les blogueurs, influenceurs, et puis voilà, on travaille avec eux d'ailleurs sur le moyen long terme la plupart du temps. On évite voilà le one shot comme ça. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, j'ai délégué les deux fois, ça a été moyen. Voilà, ça c'est une partie que je fais encore, mais que j'aimerais bien déléguer à moyen long terme.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, là, ça fait quand même une belle équipe. Ça fait juste une question.
Oui.
La plateforme logistique, elle est en France?
Oui. Ah oui. Tout part de France. Tout est en France.
D'accord.
Voilà.
Il
n'y
a que toi, en fait.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi la magie, c'est que quand on a commencé à déléguer, qu'on n'avait plus de stock, que notre maison ne ressemblait plus à un entrepôt parce qu'il fallait voir. Hein.
Oui, bah, j'imagine, j'ai vécu ça.
Voilà. Et du coup, c'était incroyable. Je ne reviens pas de tout ça. Et en fait, quand on a commencé à déléguer tout ça, ça c'était vraiment la partie qui faisait que bah, pour le moment, on était en France. Et une fois qu'on a délégué ça, on s'est dit, mais en fait, on a juste besoin d'une connexion Internet pour travailler, nous.
Mmh.
Parce qu'au final, la plupart des membres de l'équipe, etc., on ne se voit pas physiquement. On fait des réunions par Zoom, etc. On échange énormément par mail et par téléphone. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, grâce à Talkup, on peut vivre partout sur la planète où on veut parce qu'il nous faut juste une connexion Internet. Et ça, c'est vraiment
c'est
incroyable. La magie du e-commerce, de ces nouveaux métiers. Et voilà. Et du coup,
c'est la liberté, en fait. Voilà. Ça donne vraiment une liberté.
Incroyable. Mmh. Et effectivement, donc aujourd'hui, on a Dubaï. Peut-être que dans 3 ans, on sera à New York et dans 5 ans, on sera, je sais pas, je, voilà, mais c'est incroyable. C'est, voilà, ça a pu nous permettre ce rêve-là qu'on avait et qu'au final, avec nos boulots, nos anciens boulots, on n'aurait pas pu se permettre cette liberté-là et voilà, de choisir où on veut vivre. C'est incroyable.
C'est super. Ouais. Marisa, toujours une question qu'elle pose aux personnes qui sont entrepreneurs ou pas d'ailleurs.
Ouais.
Elle dit toujours, ce n'est pas dans la liste des questions que je t'avais envoyées, mais oui, je la pose quand même. C'est quoi ta journée type?
Ah oui.
Du matin où tu te réveilles, ouais, jusqu'au soir. Ou peut-être que je l'ai déjà dit, peut-être que
je
t'avais mis.
Peut-être. Tu m'avais posé hein, cette question. Ça me dit quelque chose, je l'ai vue. Je l'ai vu, donc...
Ah oui, c'est vrai, voilà. Si tu voulais me décrire une journée type, c'est vrai, voilà. Tu vois, j'avais oublié.
Voilà, et du coup, bah, moi, ce que j'avais préparé aussi en réponse, c'était de te dire que c'est très difficile parce que les journées ne se ressemblent pas. Et du coup, bah, si les personnes veulent vraiment voir mes journées types, je vous invite à me suivre sur mon compte perso parce que j'essaie de vraiment partager le plus possible. Et puis des fois, je fais vraiment voilà le programme du jour. Et à la fin, quand je fais la conclusion, bon, bah, en fait, il y a la moitié des choses que je devais faire, mais finalement, non, parce qu'on a eu un gros souci, je sais pas, par exemple... Sur le site, il y a un bug monumental qui fait qu'en fait, tout est à l'arrêt. Ah mince, mais d'où ça vient ce bug? Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, tout ce qu'on avait, bah, ça se reporte, etc. Et du coup, moi, comment je fonctionne? C'est vrai que je fais des to-do list à la semaine où à peu près, voilà, je sais la direction que va prendre la semaine. Voilà, bah, je sais que j'ai ça à faire. Je sais qu'il faut que j'échange avec le fournisseur A sur le lancement du nouveau produit. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Et après, il y a des choses aussi qui se font quotidiennement. Donc, on a toujours un point avec la personne qui gère le service client. J'ai un point quotidien aussi avec la community manager, etc. Donc, il y a des choses qui sont plus ou moins figées. Mais après, la journée type, en fonction des besoins, des attentes, des ruptures, etc., ça va être tout et son contraire. Donc, vraiment, voilà, si par exemple, une personne regarde sur mon compte perso, donc l'émancipatrice, j'ai des petites bulles en story à la une, entreprendre, lady boss, et je ne sais même plus lequel. Et en fait, quand on regarde, bah, de temps en temps, je partage mes journées types et en fait, il n'y en a aucune qui se ressemble.
Bah, oui, de toute façon, voilà. J'aime bien poser cette question, alors qu'en vrai, quand on est entrepreneur, c'est hyper compliqué de dire, bah là, vraiment, aujourd'hui, j'ai une interview à 8h45, mais c'est pas tous les jours que je fais une interview à 8h45,
exactement,
tu vois. Donc,
c'est ça. C'est hyper. C'est très différent hein, du salariat. Mais oui et non, parce qu'au final,
on a quand même une petite routine.
Voilà, mais... on a une petite routine, effectivement, qui s'installe, mais finalement, moi, je la vois plus sur une semaine ou un mois que sur une journée. Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, ça va plus être une vision comme ça, quoi.
Et du coup, ça fait 3 ans maintenant que Socup existe.
Ouais.
Donc, Socup a beaucoup évolué hein, quand même en 3 ans. Mmh. Toi, comment t'as vu ces évolutions? Par exemple, tu vends des culottes menstruelles aujourd'hui.
Ouais.
Le nom, c'est Socup. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, j'ai bien compris que toi, à la base, tu comptais pas vendre des culottes menstruelles.
Exactement.
Tu pensais donc rester sur cette niche du uniquement la cup.
Exactement. Et du coup,
qu'est-ce qui t'a fait que t'as voulu créer une culotte du coup?
Exactement. Alors du coup, en fait, c'est arrivé du fait que bah, je me suis rendu compte que la cup n'était pas adaptée à tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon optique où la cup, c'est trop bien, ça m'a révolutionné. Donc, ça va révolutionner toutes les femmes. Mais en fait, non, sauf que là, tu as des femmes qui sont postpartum, elles ne peuvent pas mettre de cup. Tu en as d'autres, elles ne veulent rien mettre à l'intérieur. Il y a aussi, voilà, toute, et qui est une réalité. Hein. Il y a un risque de syndrome de choc toxique avec une cup, comme avec un tampon. Il faut prendre en compte certaines règles d'usage, etc., d'hygiène. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y en a aussi juste par cette crainte-là, on se dit non, moi je veux pas de cup, je veux rien mettre à l'intérieur, etc. Et du coup, c'est pas adapté à tout le monde. Et du coup, bah, il fallait l'entendre. Et je me suis dit, bah, quelle solution on peut proposer aussi à ces femmes-là qui sont pas intéressées par les cups, mais qui cherchent aussi des solutions saines. Et moi, je voulais pas faire de jetables. Donc, du coup, bah, il restait servi qu'il vivait là-bas. Et puis, la culotte aussi, j'en entendais un peu parler, etc. Et c'est vrai que nous, on a été une des premières marques, hein, très précurseur en France, voilà, au niveau de la culotte menstruelle. Et du coup, bah, voilà, ça fait un boom. Et c'est vrai que nous, c'est aussi ce qui a permis vraiment le développement à une grande échelle de Socup. Parce que finalement, le produit phare actuellement, notre best-seller, c'est la culotte menstruelle et pas la cup. Voilà. Et
d'accord, c'est vrai que, c'est drôle.
Ouais, il y a aussi eu la question de est-ce qu'on change le nom ou pas. Et finalement, je me suis dit, bah non, parce que Socup, ça fait un peu Socona aussi. C'est pour ça qu'on avait choisi ce nom. Le cup aussi, bah, c'est le produit, c'est l'histoire, en fait, de la marque, etc. Donc, pour l'instant, on a laissé. On verra dans les années. Mais finalement, ça avait son sens aussi pour moi de garder cette idée-là. Ça me faisait aussi penser au slip français, qui, je pense, au début, a lancé parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vendre que des slips. Et finalement, aujourd'hui, ils vendent des chaussettes, des pyjamas, etc. Mais la marque reste sur ce nom-là. parce que c'est l'histoire aussi de la marque, etc. Et effectivement, ensuite, on a commencé à lancer des produits, d'autres produits, des collections, parce qu'on a toujours été aussi à l'écoute des clients. Et moi, je suis pas restée dans mon idée où la cup, c'est la vie, la cup, c'est trop bien, etc. En fait, non, c'est trop bien ce qu'on a, mais pas pour tout le monde. Et il faut l'entendre. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce qu'on propose à toutes ces clientes qui nous disent, bah moi, j'adore la marque, etc., mais ce produit, non. Voilà. Et puis voilà, comment est venue l'idée d'autres produits et d'autres aussi qui vont arriver là pour toujours répondre à la demande des clients, en fait, et de leur attente.
Mais tu vois, Marisa, c'est une adepte de la cup. Ouais. Elle ne parle que de la cup, elle adore la cup. Alors que moi, tu vois, je suis plutôt... j'ai toujours pas pris encore le pas de m'en acheter une.
D'accord.
Et de tenter. Je ne sais pas pourquoi, ça me fout la trouille. Alors que pourtant, j'ai mis des tampons pendant des années. Ça doit faire même 3 ans que j'ai mis de tampons. Mm-hmm. Mais je n'utilise maintenant que des culottes menstruelles.
D'accord.
Et c'est vrai que à chaque fois je me dis un jour je passerai le cap, et je pense que je vais passer le cap d'ici 2021.
D'accord.
Mais c'est vrai que t'as bien fait de changer, de proposer une autre alternative, parce que moi typiquement, bah je serais allée sur ton site, j'aurais vu une cup, je me serais dit bah c'est pas pour moi, parce que moi je suis pas prête encore.
Ben voilà, ben c'est ça. Et du coup, l'idée, c'est toujours de proposer des solutions et écouter. C'est vrai que voilà, moi, pour moi, c'était une révolution, mais c'est pas dire que pour tout le monde, c'était une révolution, quoi. Et effectivement, et on a aussi beaucoup de clientes qui sont tantôt la cup en fonction des humeurs. C'est-à-dire, je vais aller à la plage, etc. Donc là, c'est bien la cup. Ensuite, la nuit, je vais plutôt utiliser une culotte, etc. Et en fonction aussi de notre mood. Moi, c'est le cas aujourd'hui, donc j'ai la cup et la culotte. Et à 80%, j'utilise plus la cup, j'adore la cup, mais de temps en temps, en fin de règle, etc., je trouve que c'est bien aussi la culotte, donc aussi, c'est complémentaire, c'est des produits aussi qui ont du sens et qui sont complémentaires, au final.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, de toute façon, Marisa, pareil, elle utilise et la cup et la culotte, ça dépend de sa journée aussi, ça dépend si tu restes à la maison de chill, ça dépend si... Et du coup, c'est vrai que les culottes menstruelles, on en entend énormément parler en ce moment. C'est incroyable sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que tout le monde porte une culotte menstruelle. en ce moment, c'est fou. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que finalement, c'est de la concurrence. Comment toi, tu vis cette concurrence? Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce boom des culottes menstruelles?
Je trouve que c'est une excellente chose, parce que enfin les femmes ont le choix, et elles n'ont plus le choix entre la peste et le choléra, entre guillemets, que les serviettes hygiéniques jetables et le tampon. Pendant des années, c'était ces choix-là qui étaient proposés aux femmes, et les alternatives, on a l'impression que c'était du Moyen-Âge. Voilà, les serviettes hygiéniques lavables, les cups, etc. Au départ, nous, on a vu aussi l'évolution par rapport à ce cup, où au départ, ces produits étaient un peu moqués, et on avait une niche très spécifique qui était sensibilisée à ça. Où aujourd'hui, c'est plus monsieur et madame tout le monde, plutôt madame, hein. Voilà, madame tout le monde qui est intéressée par ces produits. Donc, c'est une excellente nouvelle. Moi, je suis très contente qu'il y a le choix, parce que ça permet aussi aux femmes d'avoir le choix. C'est-à-dire que, par exemple, certaines vont se dire, moi, je mood bien avec cette marque, j'aime bien, etc. Cet univers, je vais plutôt aller vers cette marque-là. Et d'autres qui vont être sensibilisées à une autre marque qui va avoir plus. En fait, ça laisse le choix aux femmes. Donc, que demander de plus? Et c'est un secteur, en fait, où moi, je me dis, s'il y a de la demande, et c'est qu'en fait, on est au bon endroit, puisque ça veut dire qu'il y a un marché. Et il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, moi, je suis pas... Je sais qu'il y a certains concurrents, ils sont vraiment... je vais bloquer la marque, mais je vais lui prendre ses idées, je vais faire ci, je vais faire ça, machin. Allez, fatiguez-vous, moi, j'ai pas le temps pour ça. Me concentre sur ce cup, mes clients, et puis j'avance. Mais je sais que certains n'ont pas forcément cette vision-là, mais moi, je suis vraiment de la vision de... Il y a de la place pour tout le monde, et ça touche quand même la moitié de la population, les femmes qui ont leurs règles un peu moins peut-être, puisque tout le monde n'est pas menstrué de leur naissance à leur fin de vie, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un marché qui est énorme, et il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et du coup, on va dire l'avantage qu'avait Socap, c'est que nous, on a été quasiment pionniers en France des culottes menstruelles. Donc, on a pu aussi, dès le début, se positionner sur ce marché-là. Et voilà. Mais du coup, pour moi, la concurrence en plus aussi, ça me pousse à être meilleure, parce que certains ont mis la barre très haute. C'est-à-dire que moi, par exemple, entre ma première version de culotte qu'on a vendue, qui était vraiment hyper basique, etc., il y avait les coutures qui étaient visibles, je ne savais pas qu'on pouvait faire autrement, etc. Et ce que proposaient certaines concurrentes, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, il faut qu'on élève le niveau. Et du coup, nous aussi, ça nous a poussé à être encore meilleurs, à se dire, non, là, en fait, il y a une concurrence, elle est là, et on ne peut plus proposer cette culotte qui, voilà, il faut qu'on enlève les coutures, faut qu'on fait ci, faut qu'on fait ça, faut qu'on propose le choix aussi, les coupes taille haute, boxeur, etc., pour toujours encore proposer le choix aux femmes, parce que finalement, la culotte, ça ne convient pas à tout le monde. Il y en a qui sont plus à l'aise avec des boxeurs, d'autres qui préfèrent des tangas, d'autres qui préfèrent des tailles hautes, etc. Et du coup, nous aussi, ça nous a poussé, ça nous a rendu meilleurs et vraiment à se focaliser sur nos clientes, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'on peut proposer. Voilà. Donc, pour moi, je vois quasiment que du positif à la concurrence et on ne peut pas avoir le monopole sur un marché ou autre. Donc, c'est bien et c'est... Voilà, il y a de la place pour tout le monde et c'est fun. Voilà.
C'est super. Mais franchement, tu réponds à mes questions de la même façon que nous, on y répond quand on nous pose la question. Les filles, il y a de nouvelles box mensuelles de Snack 5 qui sont ouvertes. Comment vous le voyez? Ça va? C'est pas trop dur? Ouais. Ah non, c'est pas trop dur. Non, parce que encore heureux qu'il y ait de la concurrence. La concurrence, c'est hyper sain. Et les gens, ils ont toujours peur, en fait, de la concurrence. Mais d'un côté, une entreprise... seul au monde, je suis même pas sûre que ça existe.
Ben non, c'est ça. On peut pas avoir le monopole sur quelque chose. Tout à fait. Ouais. Moi, il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai. Là, après, ça pousse comme des champignons. Donc, moi, j'invite aussi les personnes à être vigilantes parce qu'il y a aussi, beaucoup de dropshipping, beaucoup de culottes quand on sait pas trop la composition, dans quelles conditions c'est fait, etc. Donc, voilà, juste jeter un œil sur un petit peu ça. Après, encore une fois, ça va dépendre des gens. Si certaines personnes vont être à la recherche d'une culotte vraiment pas chère, d'autres vont absolument du Made in France, du coton bio, du etc. Et ça va dépendre des différents critères. Et c'est pour ça que nous aussi, SoCap, on a beaucoup évolué par rapport à ça. C'est vrai qu'au départ, moi, je ne voulais que des produits Made in France. Voilà. La cup était Made in France, nos premières culottes étaient Made in France, etc. Et finalement, je me suis confrontée à beaucoup de clients qui me disent « Mais moi, j'adore les culottes, j'aime bien, etc. Mais c'est trop cher. J'ai pas le budget. » Et ça, il faut l'entendre. C'est-à-dire que moi, ma réalité et la sienne, c'est pas forcément la même. Et l'idée, c'est pas d'aller dans un truc de calcul. Non, mais attends, écoute, les salettes hygiéniques, c'est 3-4 € fois 12 mois, fois 5 mois. C'est truc hyper barbant qui est ok, super, mais là, dans tous les cas, tes 50 €, je les ai pas tout de suite, moi, maintenant. Donc, je pourrais pas me projeter dans 5 ans. Désolé, etc. Il fallait l'entendre. Et du coup, on s'est rendu compte, effectivement, ça a été dur aussi pour moi de me dire, je vais pas faire que du Made in France, mais que le Made in France avait ses limites et que, en dehors du Made in France, ça voulait pas forcément dire qu'il y avait pas d'éthique. Donc, nous, on a cherché vraiment des entreprises très éthiques, etc., mais pouvoir proposer une culotte un peu plus accessible. Et ensuite, pareil, certaines voulaient des culottes très, très élégantes, etc. Et en fait, quand on a commencé à en faire des Made in France, le coût, il faisait qu'on ne pouvait pas la proposer à moins de 40 €, cette culotte-là. Du coup, on s'est dit, ouais, mais peut-être qu'il y a des filles aussi qui veulent des très belles culottes et elles n'ont pas 40 €, comment on fait? Et c'est comme ça qu'en fait est venue la réflexion de le Made in France à ses limites, malheureusement. Et du coup, si nous, on veut répondre aux demandes de nos clients et puis aussi proposer un produit qui est accessible, ça va être compliqué de faire que du Made in France. C'est à ses limites. Et du coup, ça aussi, ça a été très compliqué pour moi parce que je me positionnais vraiment comme une marque Made in France. Et du coup, ça a été toute une stratégie, tout un marketing aussi, un développement, une communication à avoir par rapport à ça et toujours, toujours dans la transparence avec les clients. C'est-à-dire que sur les sites, les produits Made in France sont clairement notés, les produits pas Made in France sont clairement notés, c'est pas caché en bas, etc. On veut cette transparence et les clients apprécient et voilà.
Mais du coup, c'est fait où si c'est pas fait en France pour les autres?
On a Tunisie, voilà, on a trouvé. Ouais. En plus, ce qui est drôle, c'est que au niveau de l'atelier tunisien, c'est des Français en fait qui sont installés en Tunisie depuis une quinzaine d'années. C'est deux frères et vraiment adorables. Ils sont vraiment toujours dans la recherche de super produits, etc. Et du coup, les produits sont made in France et Italie au niveau des matières, mais produit en Tunisie. Et du coup, nous aussi, c'était très important l'éthique, c'est-à-dire dans quelles conditions elle est produite. Les produits, on voulait une totale transparence, donc les ateliers, visite d'ateliers, etc. Il fallait vraiment tout voir et est-ce que les salariés sont respectés. Pour moi, c'était très, très important au-delà du coût qui allait baisser, mais c'était dans quelles conditions sont fabriqués mes produits et qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce que je n'autorise pas, etc. Ensuite, on a une production aussi en Turquie, etc. Et ça se passe super bien. Ils sont hyper transparents, etc. Et voilà. Donc, on a Tunisie, Turquie et France.
Mais tu as raison, en fait, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du Made in France et c'est génial parce que il faut qu'on, surtout en cette période de crise, de crise économique, autant faire circuler l'argent dans notre propre pays. Ça me paraît super le Made in France, mais tu as tout à fait raison, ça a ses limites. Nous, on a créé notre agenda l'année dernière, on le voulait Made in France, on l'a fait Made in France, mais il y avait des choses qu'on voulait absolument. Ouais. Par exemple, je sais pas moi, des spirales dorées, un espèce de marquage à chaud complètement différent, etc. Ouais. Mais alors le coût, quand on veut faire du, quand on veut du savoir-faire si précis, le coût est juste astronomique. Exactement. Donc c'était soit on le faisait en France et donc on vendait un agenda limite à 70 €.
Ouais.
Super. Ou soit bah on réduisait nos envies en fait. Et là cette année on s'est dit on veut pas réduire nos envies. Ouais. Donc, on va trouver ailleurs. Et finalement, on est parti du coup en Italie où le savoir-faire est complètement différent pour la papeterie. Et pareil. Donc, et ça reste quand même l'Europe et tout se passe très bien. L'usine, c'est vraiment au top. Donc, c'est vrai que parfois, le Made in France, c'est chouette. Ouais. Mais si on ne veut pas proposer quelque chose de complètement hors de prix, et après, on se fait aussi un petit peu, surtout quand on est sur les réseaux sociaux comme nous, comme toi. C'est soit on va nous dire mon Dieu c'est pas fait en France, on va se faire taper sur les doigts, mais quand c'est fait en France on va nous dire bah votre agenda il est trop cher.
Exactement, ben c'est ça.
Super dur.
Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est pour ça que nous, on s'est dit, en fait, on va faire différentes gammes et chaque gamme aura sa spécificité. Et comme ça, en fonction des attentes de la cliente, elle pourra choisir. D'une personne qui veut absolument du Made in France, etc., elle a le choix. Et dans le Made in France, elle a la culotte basique. Ensuite, elle a une culotte très élégante, vraiment, voilà, avec la dentelle italienne, machin. Elle peut. Et si elle veut, un peu entre les deux, elle peut aussi. Ensuite, une cliente qui dit, moi, je m'en fous du Made in France tant qu'il y a de l'éthique. Je m'en fous si je peux économiser 10 euros et c'est pas du Made in France. Ben voilà, je vais prendre la culotte, par exemple, turque, qui est aussi en niveau d'impact écologique. Ce qui est fou, c'est que celle-ci, en fait, à mon sens, elle est plus écolo, entre guillemets, que la Made in France. Parce que tous les produits, toutes les matières sont produites directement en Turquie. La culotte est fabriquée en Turquie et ensuite, il y a juste l'envoi en France. Voilà, au niveau de l'impact carbone, écologique. Alors que la culotte française, bon, on va avoir de la dentelle qui vient d'Italie. Le bambou, il vient d'Inde, etc. Mais malgré ça, on est quand même, tout est fabriqué en France. Donc, les matières viennent un peu de partout et ensuite, on fabrique en France. Donc, finalement, l'impact écologique, il est plus conséquent au niveau d'une culotte française qu'une culotte turque. Voilà.
C'est fou quand on y pense.
Hein. Ouais. Et du coup, ensuite, on a fait la culotte tunisienne, donc certifiée Ecotex, etc. Mais là, on n'est pas sur du bio, on n'est pas sur des matières totalement naturelles. Elles sont certifiées Ecotex, mais là, du coup, le coût est moindre. Donc, ça fait une culotte à moins de 25-26 €. Voilà, c'était vraiment un prix qu'on s'était donné pour les personnes qui vraiment, elles veulent cette alternative. Elles veulent pas non plus prendre une culotte à 3 € sur AliExpress qui, on ne sait même pas comment elle est composée, donc quelle matière. De quelle manière sont traités les salariés. Bah là, c'est vraiment la culotte économique, efficace, etc. Mais bon, on n'est pas sur des matières naturelles, on n'est pas sur du Made in France. Et comme ça, on a vraiment ces trois gammes qui permettent à chacune de se sentir à l'aise avec son cup et en fonction de ses critères et de son... parce qu'il faut aussi cette réalité économique de son budget, quoi. Parce que même, je pense que c'est celle qui prend la plus économique, peut-être qu'elle aurait un rêve de la Made in France, mais elle est face à sa réalité où si je veux la Made in France, je vais devoir économiser 6 mois pour me la payer. Et je veux des culottes menstruelles maintenant, moi. Donc voilà, c'est tout ça. Et c'est pour ça qu'on a fait ces différentes gammes pour s'adapter à toutes ces attentes que nos clientes avaient.
Bah, c'est une super réflexion, en fait. Hein. J'ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est une excellente réflexion. Et du coup, ça me pousse à réfléchir moi aussi. Ouais. C'est super.
Bah, super, voilà.
Et du coup, petite question indiscrète, parce que j'aime bien ces petites questions comme ça. Trois ans après, est-ce que tu arrives du coup maintenant à vivre de cette expérience, de ton entreprise? Est-ce que ça a été dur d'en vivre? Est-ce que tu as vécu des périodes difficiles qui t'ont donné envie de tout lâcher, notamment côté financier, ou voilà, ça roule depuis 3 ans et c'est le top?
D'accord. Alors du coup, aujourd'hui en tout cas, on en vit aisément. Vraiment, voilà, on n'est pas du tout à plaindre. Voilà, c'est d'ailleurs ça qui nous a permis de vivre aujourd'hui à Dubaï, etc. Et de manquer de rien. De voilà, moi aujourd'hui, vraiment, je suis très reconnaissante de aujourd'hui ne plus forcément faire attention à mes finances, parce que on est dans une situation confortable. Voilà, faut le dire, hein, faut pas se mentir.
Ouais, t'as raison.
Et puis voilà, parce que c'est vrai qu'en France, moi j'ai été à l'époque assistante sociale, conseillère en économie sociale et familiale. Donc en gros, conseillère en économie sociale et familiale, c'est un peu l'assistante sociale du budget. Donc on a beaucoup travaillé sur le budget de manière sociologique, etc. Je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais vraiment on a étudié voilà de manière très profonde durant mes études l'argent. Voilà, le rapport à l'argent des gens. Et on se rend compte, surtout en France, qu'il y a un gros, gros tabou au niveau de l'argent. Quand on gagne de l'argent, on est mauvaise personne, c'est pas bien.
C'est ça.
Travailler, faut souffrir, hein, faut se lever le matin, aller travailler, souffrir et avoir ton salaire. Si tu vis une best life, je ne sais où, et que finalement, ils ont l'impression que tu es que sur ton canapé, que tu gagnes de l'argent, c'est pas juste, c'est pas bien, etc. Et c'est vrai qu'en France, on a un regard au niveau de l'argent qui... Bon, là, je généralise, bien entendu, tout le monde ne parle pas comme ça, etc. Il faut nuancer ce que je dis. Mais c'est vrai que, voilà, moi, dans mes études, on a beaucoup travaillé sur le rapport à l'argent. Et au final, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte, hein, durant mes études, etc., des différentes lectures et différentes choses, qu'en France, il y a vraiment un gros tabou par rapport à l'argent, etc. Mais bon, en tout cas, moi, je n'ai pas honte de le dire, de dire que, bah voilà, je suis partie de rien. J'ai lancé un business qui, aujourd'hui, voilà, le chiffre d'affaires dépasse le million, etc. Et on vit aisément avec ce
cœur. Bah, super. Voilà. C'est chouette de le dire parce que c'est vrai que les gens ont tellement peur de le dire. Moi, parfois, quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, j'ai juste envie de leur poser la question. Ouais. Et quand la personne va essayer tant bien que mal de poser la question de façon complètement détournée, la personne va répondre, je répondrai pas à cette question. Moi, je vois, mais pourquoi? Parce que le but aussi de nos podcasts, le but de ce partage, c'est pas de dire, ah, regardez, on vit super bien. Non, c'est de donner à nos abonnés, à nos auditeurs, l'impulsion de aussi se dire, si elles ont réussi, il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas, parce que finalement, que ce soit moi ou que ce soit toi, on n'est pas des génies non plus. Hein.
Exactement.
On a travaillé dur, et maintenant on peut vivre en effet de façon confortable. Et en effet, ça me fait toujours rire parce que j'avais dit dans un de nos vlogs qu'aujourd'hui je travaille que 4 heures dans ma journée.
Ouais.
Et c'est dingue parce que moi je l'ai dit de façon complètement naturelle. Mmh. Et Marisa m'avait dit, oulala, tu vas te faire laminer d'avoir dit ça, mais je l'ai pas coupé au montage quand même.
D'accord.
Et on voit les commentaires, et bon, bien sûr, je me fais pas laminer, mais il y a 3-4 commentaires quand même disant, eh ben dis donc, tu nous fais payer, donc je vends quelque chose, pour que tu travailles que 4 heures par jour, franchement, c'est une honte, etc. Et là, je me suis dit, ah oui, donc on en est à là. De nos jours, il faut dire absolument que je me lève à 6 heures du matin, je travaille tout de suite et que je me couche qu'à 3 heures du matin, que je trime toute ma vie.
Ouais.
Pas du tout. Et en vrai, même au bureau, moi qui travaillais pendant des années à un bureau, en vrai de vrai, les 8 heures de travail à mon bureau, je travaillais pas 8 heures. Je passais beaucoup de temps à papoter avec mes collègues, à regarder des blogs, à regarder ce qui se passait sur YouTube, en concentration.
Oui.
8 heures, j'y crois pas vraiment, quoi.
Ouais. Exactement, c'est ça.
Sauf si on est médecin, hein, mais.
Ouais. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en France, moi, j'ai vu aussi de par mes études, c'est qu'on a cette vision du travail méritant et du travail qui n'est pas méritant. C'est comme le métier de blogueur, influenceur qui est vraiment sous-estimé en France, alors que dans certains pays, surtout les pays anglo-saxons, c'est normal. Mais ils ont créé une communauté, ils ont machin, ils ont trimé, parce que peut-être avant d'avoir leur premier partenariat, pendant 2 ans, ils ont fait du contenu gratuit. Aujourd'hui, bah, si elle paye 2000 euros, elle fait payer 2000 euros son poste, c'est parce qu'elle sait la valeur et tout ce qu'il y a eu derrière. Et du coup, on a toujours cette légitimité en France de dire, bah, voilà, lui, il travaille dur, donc c'est bon, parce qu'il a fait des études, parce que machin. Elle a fait juste la belle sur YouTube et elle prend 10 000, 20 000 euros par mois, c'est pas normal. Mais en fait, non, il y a des nouveaux métiers, le monde évolue et il faut, voilà, faut être avec son temps, etc. Et parfois aussi, certaines personnes vont travailler dur. Ils ont pris des risques que beaucoup de personnes ne seraient pas prêtes à prendre. Et peut-être qu'ils ont travaillé dur juste un an, très très dur. Ils ont fait des sacrifices, ils sont allés en vacances, ils n'ont pas fait plein de choses pendant un an. Mais ce travail de un an a permis qu'aujourd'hui, ils ont créé un système qui fait que même en dormant, ils sont payés. Et c'est dur en France de l'entendre ça. Même moi, des fois, j'ai des remarques, etc. Parce que des fois, je chill et j'aime bien montrer parce que je me dis, oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont être frustrés parce que c'est des jaloux, des envieux, etc. Mais j'espère qu'en fait, ça va en inspirer d'autres de dire, bah, regardez, hein, ce connard, je suis en région parisienne, j'ai rien plus que quelqu'un, je me suis juste lancée. Et aujourd'hui, oui, un mardi, je peux aller à ma piscine et rester toute la journée, c'est pas grave. Mais c'est une manière d'être et c'est les nouveaux métiers, c'est des nouvelles choses, le monde évolue et puis il faut l'entendre. Il faut pas dire que elle est moins méritante parce qu'elle s'est pas levée à 6 heures, elle est pas partie bosser à la chaîne.
Exactement.
Moi j'ai ma mère qui est femme de ménage qui se levait le matin, etc. Et qui aujourd'hui on va peut-être considérer, c'est une personne qui me dit ma mère elle a un vrai boulot. Par contre, elle a un vrai boulot, mais elle est payée au SMIC. Et parallèlement, moi, j'ai fait quelques études, etc. Mais aujourd'hui, je ne travaille même plus par rapport aux études que j'ai faites. J'ai lancé mon business. C'était dur pendant un an et encore dur, hein, c'est relatif. Mais ça a été dur pendant un an. Mais aujourd'hui, bah, le système, ce que j'ai créé, me permet que je peux faire vraiment 3-4 jours totalement off. Ça va quand même tourner, ça va être automatique. Je ne me le permets pas, je ne peux pas, parce que c'est une chose que je n'ai pas encore déléguée, etc. Mais il se peut que dans 2-3 ans, finalement, la machine SoCup tourne parce que j'ai créé ce système. Et derrière, je paye des salariés, je paye des freelances, je paye. Il y a énormément de choses aussi qui font que ce système tourne et qui fait qu'au final, même lorsque j'ai tout payé, mes charges, mes impôts, etc., bah peut-être qu'il va me rester 300 000 euros. Peut-être un jour, mais et ben c'est mérité aussi, voilà. Et c'est vrai que c'est les visions. Chacun a son rapport à l'argent qui le propre par rapport à son vécu. Et c'est comme si on dit à quelqu'un, on pose la question à 10 personnes, qu'est-ce que bien gagner sa vie? Je pense que certaines personnes vont dire c'est 2 000 euros par mois, et d'autres qui vont dire c'est 10 000 euros, d'autres qui vont dire c'est 100 000 euros.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
C'est tellement relatif. Voilà. En tout cas, moi, moi, je suis fière de le dire que aujourd'hui, je vis aisément grâce à ce que j'ai fait, grâce à SoCup, et ça a été très rapide. Et je me rends compte que, j'ai extrêmement de gratitude par rapport à ça, du fait que, j'ai pas trimé pendant 40 ans pour avoir ce résultat-là. Et c'est beau,
c'est chouette,
aussi,
ouais,
de se dire, j'ai 30 ans et voilà. C'est
parce que du coup, c'est la même entreprise qui fait vivre, qui te fait vivre toi, mais aussi ton conjoint et tes enfants.
Ouais, exactement.
Il n'y a plus de salaire extérieur.
Non. On est,
c'est chouette.
Voilà. Ouais, c'est ça. Et mon mari, du coup, m'a rejoint à 100% dans SoCup. On est vraiment associés maintenant. Et effectivement, c'est SoCup qui fait vivre, qui nous fait vivre,
c'est
ici,
top,
qui fait vivre, etc. Et c'est aussi beau de se dire, grâce à SoCup, on paye aussi des gens qui ont fait vivre aussi des familles entières.
Mais bien sûr.
C'est incroyable. La dernière fois, mon assistante Charlène, qui s'occupe du service client, qui à l'époque était cliente, la dernière fois, elle m'a envoyé un message, mais j'étais complètement... Je ne m'en rendais pas compte, moi. Et en fait, elle me dit, mais merci beaucoup, tu es vraiment une patronne en or, je suis trop contente de travailler pour vous. Là, on va avoir un projet achat, etc. Et c'est grâce à SoCup. C'est incroyable de dire que même nous, en fait, à notre échelle, on fait travailler des gens et on change la vie de certaines personnes. On leur permet d'avoir un salaire, on leur permet de faire vivre des familles, quoi. C'est incroyable. C'est voilà.
Non, mais c'est vrai, t'as raison, parce que parfois, je peux ne pas travailler de la journée parce que je peux me le permettre.
Ouais.
Mais à côté de ça, il y a des gens qui travaillent aussi avec nous, comme toi. On a une équipe derrière nous, et nous, on est toujours fiers de se dire, mais ces personnes-là, elles travaillent aussi grâce à nous, pas toujours, parce que, ils sont freelance, donc ils ont d'autres clients,
bien sûr.
Mais par exemple, quand on avait annoncé la fin de Snackies, il y en a pas mal qui nous ont dit, nous, ça nous fait mal, parce que vous faisiez partie de nos plus gros clients, par exemple.
Ouais.
Et nous, ça nous a fait mal. Donc, ça fait plaisir de les rappeler maintenant pour notre nouveau projet. Ça fait plaisir de leur dire, vous revenez avec nous. Et on vous l'avait dit, de toute façon, on voudra vous récupérer. Mais au-delà de, vous m'avez vu 2 heures aller manger au resto entre midi et 2, ou au-delà de m'avoir vu passer l'après-midi avec ma fille, je sais que c'est un luxe de pouvoir passer beaucoup de temps de qualité avec mon enfant, mais ça a toujours été mon objectif de vie, ça a été, je veux avoir mon entreprise pour m'occuper de mes enfants, parce que ma mère m'a toujours gardée, ma mère, elle travaillait avec mon père, elle travaillait la journée et vers 16h, elle venait nous chercher à l'école. Ma mère a toujours été là. Donc moi, j'ai toujours dit, je voudrais être comme ma mère, être là. Et je me suis donné les moyens. Donc c'est vrai que quand on a parfois des petites remarques un peu négatives, on est là à se dire, mais on s'est donné les moyens pour... Enfin, je veux dire, c'est pas tombé comme ça un jour. Il n'y a pas une fée qui est venue me voir en me disant, toi Isadora, tu vas gagner tant et tu vas pouvoir rester à la maison avec ta fille.
C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ça quand je dis, tu vois, de vivre une vie d'émancipation. Et c'est pour ça que je savais que pour moi, le salariat, c'était pas possible très longtemps, parce que ça m'aurait limité et j'aurais pas eu cette liberté que je souhaitais.
C'est
clair. Voulais vraiment créer le job de mes rêves.
Dubaï, hein. Si tu avais été resté dans le salariat.
C'était un rêve pour moi, Dubaï. Quand on était allé la première fois, on a vraiment aimé l'énergie de cette ville. Et je me suis dit, un jour, je veux vivre à Dubaï. Et c'était un rêve comme ça. Et mon mari aussi, il a eu un coup de cœur tout comme moi. Et au final, à un moment, on s'est dit, mais en fait, SoCup peut nous permettre ça. On a juste besoin d'une connexion Internet une fois. Et c'est au moment où on a commencé à déléguer les choses. Et on s'est dit, mais c'est possible, en fait. Et, et voilà. Et du coup, moi, c'est pareil. Je passe du temps de qualité avec mes enfants, etc. Et, c'est mon job qui me permet ça. Et, et avec le salariat, j'étais limitée. Je pouvais pas avoir, cette opportunité-là. Donc, j'avais pas d'autre choix que de créer, quelque chose qui m'aurait permis ça. Voilà.
Eh bien, super. Mmh. Ça fait déjà 1h15 qu'on parlait. On est bavarde quand même. Hein.
Je t'ai dit dès le début.
Alors, attends, pour finir, j'aimerais bien que tu me partages un commentaire négatif que tu as reçu récemment par SoCup, chez SoCup. Une cliente mécontente. Et comment tu gères la lecture de mauvais avis?
D'accord. Alors, du coup, déjà, il y a eu une évolution. C'est-à-dire qu'avant, je prenais tout personnellement. Les commentaires, oh, pourquoi elle a dit ça? Pourquoi si? Pourquoi machin? Et au final, avec le volume, on va dire qu'on se... ça impacte moins. Ça m'impactait de moins en moins. Et j'en faisais de moins en moins une affaire personnelle aussi. Hein. Ok, les attentes de Coltec. Donc, voilà. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a tellement une grosse activité que au niveau du service après-vente, c'est tous les jours qu'on a des avis positifs et tous les jours qu'on a des avis négatifs. Et vraiment, en tant que chef d'entreprise, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je commençais ma journée avec les avis ou autres, en fait, ça donnait le tour de ma journée. Bien sûr. Du coup, moi, j'avais vraiment besoin de me concentrer sur le développement de la marque, de marketing, de stratégie, etc. Et du coup, c'était des ondes, parfois positives, parfois négatives, que je recevais. Et du coup, ce que j'ai pris comme décision, c'est de déléguer cette partie-là, justement, au service client, au community manager, etc. Tous ceux qui vont être en contact direct avec les clients, c'est eux qui vont absorber ces ondes-là pour moi. Et moi, ça me permet d'être concentré sur autre chose. Donc, c'est vrai que finalement, les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, j'en vois, bien entendu. Voilà, j'ai un regard un peu loin par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que ça m'impactait un peu trop. Et du coup, par contre, je ne joue pas du tout à la politique de l'autruche. Hein. C'est-à-dire que on fait des points hebdomadaires aussi avec l'équipe. Et du coup, je dis, là, en gros, c'est quoi les grosses informations qui sont remontées? Et ça nous a permis aussi de savoir qu'il y avait une des culottes qu'on avait fait faire où, en fait, finalement, il y avait un défaut de fabrication. Parce que les clients, j'ai reçu la culotte, deux jours après, le plumetier a troué, etc. C'est quoi ce bordel, etc. Les gens étaient énervés, ils ont payé, ils font confiance. Ils reçoivent un truc, une fois la machine, le truc est troué. Et du coup, on a contacté les clientes, on a remboursé, on a renvoyé des produits, etc. Ça a été long, mais au final, c'est important d'avoir ces retours. Donc, je suis pas en mode politique de truc, je veux rien savoir, mais je me protège du plus ou du moins. Ouais. Et il y a vraiment des temps précis où on parle de, du coup là, est-ce qu'il y a pas mal d'avis négatifs qui sont revenus sur quelque chose? Ça nous a permis aussi de savoir que notre boxeur taillait beaucoup trop petit, puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges produits, les gens ont été énervés, etc. par rapport à ça. Donc au final, ça nous permet de s'améliorer. Donc moi, je le prends pas mal, et c'est normal d'avoir du plus ou du moins. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis une fan inconditionnelle des crevettes, j'adore les crevettes, et j'arrive pas à concevoir qu'on peut pas aimer les crevettes. C'est pas possible pour moi, tu vois. Et finalement, dans le monde, il y a bien des gens qui aiment pas les crevettes. Et SoCup, c'est pareil, moi je suis une fan inconditionnelle de mes produits. Pour moi, ils sont vraiment à la perfection, ils sont bien parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Mais je suis d'accord qu'ils ne peuvent pas correspondre à toutes les femmes du monde. Et voilà, et c'est juste accepter qu'on ne peut pas faire le produit parfait, n'existe pas, peu importe, puisque même les crevettes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on essaie d'avoir le plus d'avis positifs, mais les avis négatifs, ils sont là aussi pour nous donner des informations. La plupart du temps, quand une personne n'est pas contente, soit c'est parce qu'elle estimait que le temps de livraison était trop long, soit parce que le produit est défectueux, soit parce qu'il n'est pas efficace sur elle, mais pourquoi elle... Et en fait, toujours essayer, c'est ce que j'ai dit aussi aux personnes qui gèrent le service client, etc., c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi la personne n'est pas contente. Des fois, après, il y a de la mauvaise foi, on n'y peut rien, ça aussi. Voilà, de temps en temps, souvent, en fait, on comprend, elle n'était pas contente, elle ne s'est pas sentie considérée parce que si, ça, etc. Et voilà, moi, pour moi, c'est très, très important de proposer un service client réactif aux personnes. Et c'est pour ça que là, on va embaucher une nouvelle personne. Avec Charlène, désormais, les délais de réponse sont un peu plus longs puisqu'il y a plus de demandes. On est toujours sur 24 heures, donc je crois que je suis un peu trop perfectionniste, moi aussi. Hein.
Ah oui, quand même, maintenant, c'est bien. Nous, c'était 48 heures.
C'est bien, mais du coup, moi, j'ai vraiment envie de garder ça parce que les gens adorent. Ils disent toujours merci, SoCup, vous êtes réactifs. Mmh. Ça revient tout le temps. Donc, je me dis, on embauche une nouvelle personne et comme ça, on reste sur ces délais. Et puis voilà. Donc là, je suis plus souple avec Charlène, bien entendu. Je ne veux pas la l'épuiser. Je lui dis exceptionnellement, si ce n'est pas 24 heures, ce n'est pas grave. Ne stresse pas par rapport à ça. Et puis, rapidement, il y aura une nouvelle personne. Voilà.
D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi pour les commentaires négatifs parce que nous aussi, on avait délégué cette partie du SAV justement pour les mêmes raisons, parce que c'est moi qui m'en chargeais exclusivement toute seule. Oui. Marisa, elle les regardait pas spécialement. Du coup, dès le matin, je mets sur mon PC et voir « Oh, j'ai reçu ma box, la bouteille était complètement vide, je suis tellement déçue de vous, je vous suis sur les réseaux sociaux, je vous adore, mais en fait, je déteste votre box. » Voir ça à 8h du matin... Ouais. Bah, bon courage pour ta journée après.
Voilà,
et du coup, moi, je prenais vraiment personnellement en mode, c'est Isadora, moi, qu'on déteste. C'est Isadora qu'on va détester. Et en plus, comme j'ai un souci de manque de confiance en moi, ce genre de message-là, c'est vraiment tout ce qu'il me faut pour m'achever pour ma journée.
Ah ouais.
Donc moi, je me suis dit, on va prendre quelqu'un aussi. Mmh. Et du moment où on a pris Eleanor, ça a changé ma vie. Hein, parce que elle prenait tout. Donc, elle faisait vraiment le tri. Et quand il y avait vraiment des gros commentaires ou des gros messages qu'il fallait, elle me les envoyait pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse voir ce qu'on allait en faire. Mais le reste du temps, elle savait très bien comment il fallait répondre. Elle y répondait. Et au moins, moi, je n'avais pas ce côté-là. Exactement. Et comme tu dis, ça permet de pouvoir se concentrer sur ce qu'on sait faire, ça permet aussi d'être créatif et pas de penser qu'à, la personne, elle m'a dit ça aujourd'hui. Ouais. Et ça reste tout le temps en fond sonore, là, dans ton oreille. C'est horrible.
Ouais, c'est ça. Ça conditionne, la journée. Moi, c'est pareil, quand j'ai eu après ma chargée de relations clientèle. Oh là là, mais quel soulagement. Et encore une fois, c'est pas du tout de faire la politique de l'autruche, mais c'est au moins de se dire, saison 2 là, je les donne à quelqu'un d'autre et qui sait son travail de les prendre et de trouver des solutions quand c'est possible et quand c'est de la mauvaise foi, on n'y peut rien, etc. Mais après, du coup, au niveau des commentaires négatifs, en fait, moi, désormais, ce qui me touche, ceux qui sont vraiment liés au produit, ça, j'arrive vraiment à prendre du recul désormais. Et ce qui me touche vraiment, c'est plutôt ça va être des attaques plutôt aux valeurs de la marque, où on va nous faire des procès d'intention. Vous avez dit ça parce que ça, maintenant, on ne fait plus de Made in France, l'argent avant les trucs, mais complètement hallucinant. Mais moi, je suis alignée avec qui je suis et mes valeurs. Mais des fois, c'est vrai que quand ça touche vraiment aux valeurs de la marque, etc., ceux-là, on va dire, je peux encore les prendre un peu personnellement, mais sinon, tout ce qui est vraiment lié au produit, à la livraison, au truc un peu auquel on ne peut pas échapper, quoi. Et ceux-là, c'est bon, je suis complètement vaccinée. Mais du coup, ceux qui vont toucher aux valeurs de la marque, où il y aura des procès d'intention, etc., où des fois, ce n'est pas du tout le cas, les gens, des fois, ils vont voir des trucs. Mais bref, et du coup, ceux-là, c'est vrai que pour l'instant, je suis encore un peu. Je suis pas totalement vaccinée.
Donc, c'est quoi alors le commentaire négatif que tu as reçu dernièrement?
Il y en avait un qu'on avait reçu. Ça touchait aux valeurs de la marque. Donc, ça m'a touchée. C'est en fait au niveau des modèles qu'on a choisis pour Soak Up. Je crois que c'est une personne qui ne connaissait pas la marque. Hein, parce qu'en fait, il y a un autre modèle qui est très fine. Elle est fine, elle est mince, c'est comme ça. Et du coup, elle a eu un commentaire en privé. Super, body positive, zéro, gna gna gna. Un truc, mais je me suis dit, mais n'importe quoi. En plus, il n'y a qu'à regarder notre fil Instagram, on va voir qu'il y a vraiment tout. Et du coup, ça m'a touchée en plus personnellement, dans le sens où moi, plus jeune, en fait, j'étais complexée du fait d'être trop maigre. Et pourtant, je mangeais, je mettais deux pantalons pour te dire, pour paraître un peu plus grosse quand j'étais au collège, parce qu'on n'arrêtait pas de me traiter de squelette, de machin, etc. Et c'est vrai que souvent, on parle de grossophobie, etc. Mais il y a aussi des fois les personnes minces qui s'en prennent plein la gueule, comme si c'était notre faute d'être, par exemple, fine, bien foutue ou autre. C'est pareil, quand j'avais accouché, j'avais après partagé une photo de moi, je plus par rapport au postpartum, les culottes ou machin. Et en fait, les gens, ils ont commencé à faire des commentaires sur ma taille. Super, un mois après, c'est vrai que j'ai récupéré mon corps d'avant-grossesse très, très rapidement. Je pense que j'ai un très bon métabolisme aussi, merci à mes gènes. Mais du coup, ça les a frustrés je sais pas pourquoi, mais c'est pas. Et du coup, et c'est vrai que ce commentaire, il m'a un peu blessée dans le sens où je l'ai supprimé. Parce que je me suis dit, déjà, je veux pas que le modèle, elle tombe sur ça. Et puis après, en message privé, la nana aussi allait faire un gros speech. Et du coup, j'essayais d'expliquer que nous, de toute façon, on est dans le body positif. Toutes les femmes ont leur place chez Soak Up. Et du coup, ça a été révélateur et créateur d'un hashtag qu'on a créé, ma taille, ma Soak Up. Portez vos culottes. On s'en fiche que vous soyez maigre, vous ayez des vergetures, que vous soyez ronde, que vous soyez noire, blanche, etc. Portez le produit et mettez les hashtags ma taille, ma Soak Up. On va montrer que nos produits sont pour tout le monde. On ne fait pas de distinction entre les filles maigres, minces, ronde, grosse, etc. On s'en fiche, quoi. Et c'est vrai que ça m'avait particulièrement touchée de me dire, mais pourquoi en fait elle a rien demandé, elle a posé pour Soak Up, et pourquoi toi tu lui envoies ce venin elle est trop maigre, squelettique, faudra peut-être lui donner à manger, mais un truc hyper violent et hyper méchant, quoi.
C'est dommage, mais en plus je pense que je l'ai vu passer. Il me semble que je l'ai vu ça quand on a parlé, ou je sais plus, ça me dit quelque chose. Et bien, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes questions.
Il y en a une.
Eh bien, dites-nous donc. Une heure et demie. Hein, c'est le premier podcast qu'on fait aussi long. Non, mais t'inquiète, je pense que ça va beaucoup plaire. C'est une belle discussion. En plus, on n'en fait pas tous les quatre matins, l'entrepreneuriat. Donc, ça permettra aussi de renvoyer toutes les personnes qui ont des peurs, qui ont des doutes. Et ben, je pense que cet épisode, c'est un épisode un peu pépite. Où on pourra renvoyer les personnes en disant n'ayez pas peur, regardez comment Sokona a réussi à vivre la vie qu'elle mérite, qu'elle veut, qu'elle souhaite et qu'elle a envie de vivre. Mmh. Et ça, c'est vraiment une bonne, je trouve, une belle vague d'ondes positives que tu nous as envoyé aujourd'hui.
C'est super.
Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous.
Je t'en prie. Et Isadora, il y avait juste une autre question à laquelle moi, je voulais répondre et tu ne me l'as pas posée.
Dis-moi, dis-moi.
Oui, c'était par rapport au siège social. Tu sais qu'il y a Dubaï, Dubaï, décalage horaire, etc. Et je trouve que c'est...
Oui.
J'ai trouvé la question super parce que je pense qu'il y a, certaines personnes qui doivent se poser la question, est-ce que tu as fait ça pour fiscalement ou autre. Tu sais, ça peut...
Oui, oui, voilà. Oui, tout à fait.
Je me suis dit, ah, bah, super, enfin, on me la pose cette question et je vais y répondre.
Ah mais zut, je n'ai même pas répondu, même pas posé. Alors, je la pose. Voilà. Ton entreprise, elle est domiciliée à Dubaï ou en France? Parce que moi j'ai fait mes petites recherches et il me semble que j'ai vu Dubaï.
Oui, alors du coup le siège social il est à Dubaï puisque nous on vit à Dubaï, donc on est résident en fait maintenant non résident au niveau de fiscalement au niveau de la France, donc l'entreprise elle nous suit, on est à Dubaï. Par contre la marque est française, elle est enregistrée à l'INPI en France, etc. Je suis française, elle a été créée en France et tous nos collaborateurs sont en France hormis l'atelier tunisien, l'atelier turc, mais sinon tous nos prestataires sont en France, tous les freelances qu'on choisit sont en France, les produits sont livrés en France, ils passent pas du tout par Dubaï, etc. Donc tout est en France, et ce qui fait que fiscalement l'entreprise est en France. Donc on a un numéro de cigarette, on a un numéro de TVA, on s'acquitte. Voilà, je précise hein, parce que j'ai vu aussi passer des gens de toute façon assez barrés à Dubaï comme les gens de réalité pour faire du l'évasion fiscale. Déjà, il faut revoir la question de l'évasion fiscale, mais bon, enfin bref, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, on paye encore des charges, on est encore assujetti à la TVA, on a un représentant fiscal chaque mois, on lui envoie toutes les factures et puis ensuite il donne ce qu'il doit donner à l'État, etc. Mais du fait que notre activité, bien que nous ne soyons plus en France, qu'on soit non résident français, l'activité se passe en France, les produits sont livrés de France, etc. Donc on a droit à la TVA, on s'acquitte des différentes charges et c'est pour ça aussi qu'on a le siège de la société, il y a bien écrit Dubaï, etc. Mais le numéro TVA, le numéro de Siret sont français. Voilà.
Mais en plus, c'est marrant parce que quand j'ai regardé sur société.com, comme j'aime bien faire, j'étais avec Marza au téléphone et je lui dis, attends, je comprends pas. Ouais. Son entreprise, le siège social est à Dubaï, mais son numéro de Siret, c'est un FR.
Oui, voilà.
Donc je comprenais pas. Et en plus, tu vois, j'ai sauté ça sur ma fiche là. Ouais. J'ai sauté parce que vraiment, je voulais que tu me le dises parce que j'étais curieuse de me dire pourquoi c'est siège social. Donc tu as répondu à cette question.
Voilà. Et c'était important parce qu'on la pose pas souvent. Et je pense que certaines personnes doivent se la poser. Mais pourquoi la Dubaï, etc. Et c'est important aussi cette transparence, surtout par rapport aux produits et aux valeurs de la marque. Super en fait, avoir des produits made in France, réutilisables, etc. Mais la nana vit sa meilleure vie à Dubaï, ok. Et souvent en plus, Dubaï a une très mauvaise image par rapport aussi aux personnes de télé-réalité, etc. qui ont fait des choix aussi ici. Et on va dire, les gens qui viennent à Dubaï, soit ils font des listes fiscales, soit ils dépensent dans le luxe, etc. Alors que moi, j'ai une vie très simple. En soi, après on profite aussi des avantages de Dubaï, bien entendu, et je m'en cache pas et j'en ai pas honte, mais voilà, du coup c'est une question qui pour moi était très importante.
Mais super, merci.
Voilà, et t'avais la question sur le décalage horaire, etc.
Ouais.
C'est pas anodin qu'on a choisi Dubaï, parce qu'à la base on a hésité entre le Canada, donc Montréal, et Dubaï. Rien à voir, juste en termes de température, mais bon.
Ah mais complètement, là c'est le jour et la nuit.
C'est ça. Et finalement on s'est dit, nous notre business on le développe encore, et l'idée c'est de le développer à distance. Canada, je crois que c'est 7 heures ou 6 heures de décalage de retard, ça va être ingérable en fait avec nos fabricants, nos fournisseurs, le service logistique, etc. Et du coup Dubaï a cet avantage là d'avoir 2 heures l'été de décalage d'avance avec la France et 3 heures l'hiver, donc ça permet qu'on ait pas complètement décalé. Et puis en plus tout à l'heure j'ai dit nous on se lève tard, mais c'est plutôt mon mari qui se lève très tard, moi ça va encore. Et du coup c'est génial pour lui puisque au final ici il est 11h et en France il est 8h, donc il commence sa journée nickel, etc. Et ça nous permet d'avoir le temps pour les enfants, d'avoir le temps après le soir de reprendre le boulot. Par contre on finit très très tard, donc du coup parce que quand il est 20h à Dubaï, en France il est 17h ou 18h, donc ce qui fait qu'on répond encore à des mails, etc. C'est vrai que nous il est rare qu'on se couche avant minuit. Voilà. Mais du coup, c'est notre rythme, mais ça nous convient comme ça.
Bah ouais, mais c'est voilà. Chouette. De toute façon, chacun doit vivre avec son rythme. Moi, je suis l'opposé de ce rythme-là. mais c'est voilà. Important, justement, quand on est entrepreneur, on peut vivre avec le rythme exactement. Qu'on veut, quoi. Et ça, c'est
exactement.
Chouette.
Exactement. Voilà.
Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sokona. Yeah. C'était super chouette.
Ouais, j'ai adoré et moi aussi.
Franchement, j'ai adoré parler avec toi. Je pourrais parler comme ça pendant des heures. C'est horrible. Un jour, je viendrai à Dubaï et on papotera pendant des heures.
Bah oui, c'est clair.
Eh ben, merci à toi d'être venu nous parler. Je te fais des bisous. À très vite, les amis, pour un prochain épisode. À plus. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.